Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, très très heureux de vous accompagner pendant deux heures dans cet Intégral Sport avant de laisser la place à un After Live spécial rugby pour suivre la 26e et dernière journée de Top 14. On est bien accompagné dans cet Intégral Sport où l'on va parler rugby aussi avec Yann Delec. Salut Yann.
Salut à tous.
Et oui, la Dream Team Rugby bien sûr présente pour cette grande journée de rugby. Petit apéritif, Yann, c'est l'heure, hein, 18h01, on
ouais.
est d'accord.
Ouais, ouais.
On va commencer cette grande soirée en prenant la direction de Toulouse, le stade Ernest Vallon, avec la finale de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby. C'est Wilfried Templier qui est en direct pour RMC à Toulouse. Salut Wilfried.
Salut. Salut François, salut Yann. Bonsoir à toutes et à tous.
À l'heure de l'apéritif, franchement, on est gâtés. On est servi avec cette belle finale dans une très belle ambiance, hein, Wilfried. Ça vient de partir. Hein.
Ah ouais, c'est le feu Ernest Vallon, parce que les Bretons ont envahi la Haute-Garonne et ont envahi Toulouse. On annonçait 8000 supporters de Vannes, je pense qu'ils sont beaucoup plus encore sur les 19000 spectateurs présents ce soir donc dans ce stade. Ça fait 4 ans que la finale est ici, ça durera encore jusqu'à l'année prochaine, c'est la tradition Ernest Vallon. Et donc, qui va être champion de France? Qui va avoir le ticket pour le top 14? Parce que le vainqueur ce soir, le champion de France, eh bien, rejoindra le top 14. Qui de Vannes, premier de la saison régulière, avec 116 points, ou de Provence, le troisième, qui a fait tomber Colomiers en demi-finale, eh bien, rejoindra le top 14. Réponse dans 78 minutes. On est parti depuis 2 minutes ici, 0-0 entre les deux équipes. Mais c'est une finale, Yann, qui a de la gueule quand même, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Parce que c'est sur une dynamique incroyable de 7 victoires de suite, et Vannes a dominé toute la saison en Pro D2.
Ouais, exactement, tu l'as dit, c'est vraiment une finale qui a plein de promesses. 24 victoires dans la saison pour Vannes, c'est énorme, mais Provence, c'est un début d'année 2026 pas très bon, avec 5 défaites d'affilée, sauf que depuis ils font que gagner. Là c'est 7 victoires d'affilée, et puis voilà, c'est très solide. Donc effectivement, deux équipes puissantes, et on va voir. C'est même si les favoris c'est Vannes, malgré tout, ça
attention,
va rester
Yann,
incertain.
Je te rappelle l'année dernière, Montauban,
bien sûr,
qui avait bien renversé Grenoble l'année dernière, même Vannes face à Grenoble il y a 2 ans, on peut dire Oyonnax face à Grenoble il y a 3 ans. Donc c'est une finale, c'est une autre finale, compétition. Ouais, ouais. Philippe Saint-André l'a dit par rapport à la saison régulière, 0-0 entre les deux équipes. Il y a un petit round d'observation, 3 minutes de jeu, pas d'occasion, même si Covid, le demi de mêlée d'Aix-en-Provence s'est fait contrer sur son premier dégagement. Pour l'instant, ben, ça s'observe un peu, et puis ben, on est parti pour de la dramaturgie comme
on adore ça pour lancer cette grande soirée de rugby sur RMC. Vannes face à Provence Rugby. On rappelle que le perdant n'aura pas tout perdu soir, puisqu'il
sera
en barrage d'accession face au 13e du top 14,
face
en l'occurrence
Perpignan.
Ouais. Ouais, tout à fait,
ouais,
donc
prochain.
Voilà, il y aura une deuxième chance, mais évidemment les deux équipes veulent être directement au top 14 ce soir. On va suivre ça avec toi Wilfried, au programme aussi de l'Intégral Sport. C'est parti. Depuis quelques minutes à Budapest, deuxième demi-finale du Final Four de Ligue des Champions de hand féminin. On a un club français en finale, c'est Metz, et peut-être qu'il y aura une finale 100% française demain à Budapest. C'est Kevin Morand qui est au commentaire du match entre Brest et Győr. Salut Kevin.
Salut. Salut François, salut à tous. Ouais, on espère que Budapest va continuer à porter chance au club français, une semaine seulement après la victoire ici même à la Puskás Arena du PSG. Metz déjà est en finale de Ligue des Champions ici dans ce MVM Dome, et maintenant donc Brest qui affronte Győr. Alors c'est un géant, c'est un défi autrement plus important que ce qu'a fait Metz déjà en battant Bucarest tout à l'heure, mais ça part bien pour les Bretonnes qui mènent déjà 2-0 avec deux buts de Oriane Odono dans ce début de match après 3 minutes.
Oh, le premier essai vanté, le premier essai vanté dans ce ballon dans le côté fermé. Après, il y a un avantage pour Vannes qui était rentré dans les 22 mètres et qui bénéficie de cet avantage. On est parti dans le fermé avec le mid-mêlé Michael Rourou. Il me semble, est-ce que c'est Paul Surano qui marque cet essai de l'autre côté du terrain? Yann, avec ses yeux d'aigle, va peut-être m'aider. Non, c'est Takola, Robin Takola, le 3 quarts centre, qui va marquer le premier essai pour les Bretons, qui ont été pragmatiques sur cette première incursion dans les 22 et qui ont joué en percussion d'abord avec Calamafoni et on a renversé le jeu. C'est limpide, Yann, c'est ouais. Carré, c'est Van pour l'instant.
Ouais, exactement, c'est Thierry, c'est limpide. Je les sens même plus libérés que lors de la demi-finale où ils avaient été un peu empruntés sur le début de match où ils faisaient tomber des ballons à proche des lignes, etc. Là, on les sent assez libérés. Bon, je parle ça de la demi-finale, de deuxième mi-temps, c'était bien passé. Hein. Il y a eu 48 à 7 en demi-1, donc. Mais effectivement, Van est très bien entré dans son match.
Et la transformation passe pour Maxime Lafage. 7-0 François, 7-0 pour le RC Van face à Provence Rugby, 6ème minute de jeu.
Et oui, ça commence bien pour Van, le favori de cette finale de Pro D2. On va voir le réveil de Provence Rugby. On salue Philippe Saint-André qui a longtemps été dans ce studio aussi, qui
manager d'Aix-en-Provence,
fait
de Provence
du bien
Rugby,
évidemment Provence Rugby. Alors on n'est pas partisans, attention.
Non, mais
on aime bien cette équipe de Van
peu.
Aussi.
Non, mais Van, déjà Van mérite énormément de monter en top 14. Oui. Parce que quand on domine aussi outrageusement le championnat, il y a 21 points d'avance sur le second, bah quelque part sportivement il mérite de monter. Après effectivement c'est une finale, tout est à jouer, Provence n'est pas là par hasard. Et puis on a un petit affectif effectivement entre Philippe et puis moi j'en ai même un deuxième pour tout dire, parce que le capitaine de cette équipe de Provence, c'est un petit Colombien qu'on a ramené avec mon association humanitaire il y a une dizaine d'années.
Ah oui,
qu'on a récupéré, on a demandé Zafra. Aux parents si on pouvait, Andrés Zafra, exactement, si on pouvait l'amener.
C'est par Agen et Brive, avant.
Même par Givor, pour tout dire, il dormait chez Cédric Desbrosses, tu vois. Voilà, il dormait chez Cédric Desbrosses. Exactement, et après le loup l'a récupéré avec Mignoni. Agen, Brive, et maintenant il est capitaine, il joue une finale de Pro D2. Donc je l'ai eu dans la semaine là et ça nous fait super plaisir. On est ses tontons en quelque sorte.
Belle histoire de Yann Delegue, effectivement. Voilà les histoires de cette finale de Pro D2. On va suivre
le
ça
tonton Yann.
De très près. Ouais, tonton Yann, on pourrait faire ça. Tiens, ça pourrait être un jingle aussi. Les histoires de tonton
Yann. L'histoire de tonton Yann.
À l'heure de l'apéritif, vous voyez, ça peut être pas mal. Je vous précise aussi qu'on parlera de l'équipe de France de foot. Ça sera dans une heure. L'équipe de France qui prépare sa Coupe du Monde. Demain, il y aura un déplacement à Lille pour affronter l'Irlande du Nord. Ça sera lundi, dernier match de préparation après la défaite face à la Côte d'Ivoire. On verra si Didier Deschamps prépare l'équipe type. On vous donnera quelques infos et notamment des infos des blessés de Saliba. On verra s'il s'est entraîné avec les autres. Et donc, ça sera à partir de 19h. Et puis, je vous rappelle aussi en tennis qu'on a vécu sur RMC la victoire de la jeune Mira Andreeva, 19 ans, qui remporte son premier titre du Grand Chelem, qui remporte Roland Garros. On l'entendra dans cette intégrale sport. Et puis demain, finale à partir de 15h. À suivre sur RMC entre Zverev et Koboli. Et pour être complet sur tout le programme, dans quelques instants, on parlera de Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco. Les qualifications, c'était cet après-midi et c'est Antonelli qui partira en pole position. On fait un retour sur cette pole position et sur les bonnes prestations également de Ferrari avec Jean-Luc Roy dans quelques instants. Un petit détour par le handball, on le disait, avec donc un finaliste français dans cette Ligue des Champions et on espère un deuxième finaliste avec Brest qui affronte Győr. C'est pas forcément simple, Kevin Morand, parce que Győr, c'est tout simplement un club hongrois qui joue en quelque sorte à domicile. On imagine que le public a choisi son camp.
Une heure et demie de route seulement entre Győr et Budapest, la capitale. Je vous disais tout à l'heure que les Brestois étaient devant, les Hongrois sont repassés devant entre temps et maintenant. Il y a 4 partout après 7 minutes de jeu ici à Budapest. Győr, c'est un club qui est au rendez-vous de ce Final Four de façon ininterrompue depuis 10 ans. C'est le club le plus titré du 21e siècle en Ligue des Champions féminines avec 7 titres et 4 finales depuis 2009. C'est les doubles champions du titre, les doubles tenantes du titre, pardon. Donc voilà, c'est un mastodonte avec notamment trois championnes du monde norvégiennes dans leur équipe. En face, il y a des Brestoises avec aussi des internationales françaises. Mais pour l'instant, donc toujours ce score de 4 partout après 7 minutes 30 de jeu ici à Budapest.
Et je le répète pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, mais c'est en finale de Ligue des Champions, Wilfried. Tu te rends compte?
C'est fou.
C'est fou.
Pour ton plus grand plaisir.
Oui, bien sûr, évidemment. C'est pas en foot que
dire,
ça arriverait.
Il faut dire les identités, c'est important, mon cher François.
Il faut profiter du handball.
Oui, parce que la saison n'a pas toujours
ça n'a pas été toujours simple. Donc merci aux filles du handball. Un pointant et score avec toi justement entre Van et Provence Rugby, la finale de Pro D2.
10e minute de jeu, 7-0 pour le RCV, pour les Bretons de Van, avec un essai de Tacola et la transformation de Lafage, et Van qui domine pour l'instant ce début de finale de Pro D2. Le ticket pour le champion, pour le top 14, ce sera un peu plus tard à la fin de match. 10e minute, 7-0 pour Van. Face à Provence Rugby.
On revient dans un instant pour la suite de cette rencontre, la suite de tous nos lives, vous l'avez compris, et puis on reviendra sur ces qualifications de Formule 1 à Monaco avant le Grand Prix demain. Il va y avoir de la bagarre. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Avec Kylian Delec pour cette grande soirée de rugby, on vous propose, pour bien la débuter, une finale de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby. Le vainqueur ira en top 14 ce soir. Et on est avec Wilfried Templier à Toulouse.
7-0 pour Vannes pour le moment, le leader incontesté de cette Pro D2 qui a frappé en premier avec l'essai de Tacola, mais les Provençaux, les hommes de Philippe Saint-André, ne se laissent pas faire. Et là, sur un gros plaquage sur Mako Vunipola, l'international anglais, 70 sélections équipe d'Angleterre, eh bien les Vannetais derrière ont tapé dans le ballon qui traînait au sol par Coville. La Fage s'est mis à la faute, le demi d'ouverture, ils ont été chercher une pénale touche et ils avaient une occasion. Je dis ils avaient, Yann, parce que la pénale touche qu'ils ont été chercher, au lieu de prendre les 3 points peut-être, eh bien ils l'ont pas très bien négocié. Surtout ils viennent de perdre le ballon à l'entrée des 22 mètres. Chaque temps fort va compter dans cette finale, Yann, et là les Provençaux l'ont loupé.
Ouais, exactement. Puis là ils subissent un peu l'impact défensif de. Oh,
attention, il y a une percée de Boutier qui a relancé, qui arrive dans les 40 mètres. Il a fait 30 mètres tout seul maintenant. L'ancien arrière du MHR, champion de France en 2022, Lafage, qui cherche un petit coup de pied par-dessus. Il n'y a personne derrière en couverture à la vitesse. Il n'a pas pris le ballon, il a été lobé. C'est Coville qui le récupère à 5 mètres de sa ligne. Et bien on était à 5 mètres de la ligne de Vannes, Yann, et on se retrouve à 5 mètres de la ligne de Provence. Mais ça a été chaud. Quelle action, quelle relance de Vannes.
Ouais, exactement. Une grosse opportunité pour Vannes. Finalement, ils n'ont pas scoré. C'est Aix qui a gardé ce ballon.
Est-ce que tu aurais tenté la pénalité au lieu d'aller. Non, les équipes ont beaucoup au pénalty.
Ouais, ça fait. Hein. Ils vont beaucoup. Ils
sont plus. Le leg au pied, il était. Voilà, il disait, c'est moi. Hein, me le laissez.
Guinoves, on le répète, hein, il aurait fait signe 3.
Ouais, on n'écoutait pas toujours.
Hein. Il n'aurait pas laissé un ballon comme ça, tu rigoles.
Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui vont essayer de marquer l'essai. Et ils l'ont fait toute l'année, Provence. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire aujourd'hui. Et ça pas marché cette fois-ci.
Ouais, attention parce que les Vannetais, ouais, mon cher François, sont déjà à 10 mètres de la ligne, revenus sur ce dégagement avec la percussion du deuxième ligne allemand Eric Marx. Maintenant, ils sont sur le côté gauche et ils vont jouer de la gauche vers la droite avec Mako Vunipola. Et ils ont des ballons propres. On sait que c'est très dangereux, très structuré avec le trois quarts centre Pierre Boudehan, le frère de Paul de l'international français. On va sur l'extérieur maintenant. Le crochet intérieur, bonne défense d'Aix-en-Provence qui est en place quand même depuis le début de match dans ce côté défensif. Michael Rourou qui manœuvre parfaitement, hein, avec son expérience, le néo-zélandais, et qui sert Vunipola à nouveau, qui est au four et au moulin côté breton. On est à 2 mètres, même 1 mètre de la ligne à droite des poteaux. Les Vannetais peuvent frapper fort avec les avants. Ouh, il y a eu un petit en avant. Ouh, il y a eu un petit en avant à 1 mètre de la ligne. Et ça n'a pas échappé à l'arbitre de ce match qu'on n'a pas cité, Benoît Rousselet. Et il y aura mêlée pour Aix-en-Provence. Un ouf de soulagement pour les supporters provençaux. 17e minute, toujours 7-0 pour Vannes, mais ils ne sont pas passés loin de marquer un deuxième essai.
Ouais, comme tu dis, un ouf, hein, parce que là vraiment ils sont très dominants, les Vannetais. On sent que c'est plus puissant, on sent que ça va plus vite aussi, on sent qu'ils sont en confiance, qu'ils tentent des coups. Pour l'instant c'est très difficile pour cette équipe de Provence qui met du cœur à l'ouvrage, notamment défensivement, mais on sent qu'il y a une vraie domination vannetaise.
On salue Mika 46 qui nous écoute et qui est sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 pour laisser vos messages. Et puis un petit détour, c'est un temps mort actuellement, mais on va pouvoir faire un point justement sur le score des Brestoises qui sont championnes de France en titre et là qui jouent une place pour retrouver Metz en finale de Ligue des Champions face à Győr. Kevin Morand.
14e minute de jeu ici à Budapest et les Hongroises de Győr sont devant 9-7. Les Bretonnes n'ont pas profité de l'infériorité de 2 minutes dont ont écopé les Hongroises, à l'inverse des joueuses de Győr qui ont profité d'une infériorité qu'a subi Mélina Candy pour les Brestoises. Et là donc ça fait 9-8 pardon, pour Győr face à Brest après 14 minutes de jeu. Le but à l'instant pour réduire l'écart du côté des Bretonnes.
Et puis Monaco, c'est le match 3 des demi-finales de Betclic Elite, mène largement face à Nanterre 60-44 maintenant, 60-44 pour Monaco dans le troisième quart-temps. Pour l'instant il y avait un partout entre les deux équipes. C'est le premier match à Nanterre qui s'était imposé à Monaco, mais qui là est largement dominé par cette équipe monégasque. Justement, tiens, sans transition, on va aller à Monaco, figure-toi, parce que demain, tu le sais, et oui, t'as vu, j'avais même pas pensé à 15h demain, le Grand Prix de Monaco, Grand Prix très attendu, vous le savez, dans la saison. C'est le sixième de cette saison de Formule 1. On retrouve Jean-Luc Roy qui va le commenter, qui est avec nous en direct. Salut Jean-Luc.
Salut.
Mais quel talent ce François. Salut, bonjour.
Alors, on va parler avec toi des qualifications qu'on a vécues sur RMC avec encore une fois, j'ai envie de vous dire, Kimi Antonelli sur Mercedes, Poleman, Kimi Antonelli qui reste sur 4 succès d'affilée et qui a pour le coup arraché cette pole position. Hein. C'était pas forcément gagné. Ils se tiennent vraiment les 4 premiers en très peu de temps. Hein.
Ah oui, oui, c'était pas gagné du tout. Non, il a sorti un tour de folie, là, véritablement. Même si il avait signé le meilleur temps lors de la FP3, la troisième séance d'essai libre, ce matin. Mais on pensait les Ferrari quasi intouchables. Et puis, il y avait Verstappen. Tu sais très bien que ce diable de Verstappen nous sort toujours des tours de qualif absolument ahurissants. Eh bien, Kimi Antonelli, le tout jeune Italien, en tête du championnat du monde, hein, au classement général provisoire, avec ses victoires consécutives. Il a déjà pulvérisé un record. Personne n'avait jamais, comme lui, signé 4 victoires d'affilée à l'issue de sa première. Enfin, une première victoire plus 3 derrière. Les plus grands ne l'avaient pas fait. Donc là, il a été terriblement impressionnant, vraiment. Il a impressionné même son équipe, même son manager Toto Wolff et surtout ses adversaires parce que Verstappen a reconnu qu'il avait sorti un tour de folie. Verstappen, il avait déjà signé une pole hein, ici. Il avait déjà remporté 2 victoires. Eh ben, il n'a rien pu faire, il reste à 43 millièmes. Donc les deux hommes vont partager la première ligne de la grille de départ. Et ouais. Alors à Monaco, on dit toujours mais il oui. faut être devant. Mais oui, mais pas toujours. Alors j'ai regardé les stades, bien sûr. Ah ben oui, avant de te le dire.
C'est quand même parce un avantage, sinon... Jean-Luc. Tu vas pas nous dire qu'il vaut mieux partir derrière.
Ah, je vais pas te dire ça. Mais je vais te dire, par exemple, que Sergio Pérez, qu'il avait emporté en 2022 avec sa Red Bull, était parti troisième. Tu vois?
Ouais, oui.
Donc, comme Lewis Hamilton.
Heureusement.
Eh ben oui, je vais te dire que Max Verstappen, qu'il avait emporté en 2021, était deuxième, comme il le sera également là. Et puis je vais te dire qu'avant lui, ben, il y avait eu Vettel en 2017, parti deuxième, Hamilton en 2016, parti troisième, Monaco, puis je ne te parle même pas de notre Olivier Panis, parti 14e en 1996.
Il y a 30 ans, exactement,
oui,
en fait l'anniversaire
oui.
de la victoire d'Olivier Panis. Bon, justement,
oui.
concernant les Français, Hadjar, il a réalisé quand même le 6e temps, Gasly partira en 5e ligne, Ocon en 9e ligne. Il y a aussi les Ferrari hein, qui se sont vraiment très bien débrouillés sur ce circuit lors des qualifications. J'imagine très soutenu hein, pour le public de Monaco, Charles Leclerc, lui le monégasque, qui sera donc quatrième sur la grille, aux côtés d'Hamilton, troisième.
Absolument, bah, c'était la déception hein, pour Charles Leclerc qui a depuis le début du week-end il sent pas sa voiture comme il devrait, il a notamment des problèmes de frein, on a essayé de les résoudre évidemment à Monaco, c'est quand même assez important, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il y a quand même 2-3 zones de freinage assez violents, notamment évidemment au bout de la ligne droite et à Sainte-Dévote, tu sais à l'endroit où en général on vient brûler un cierge, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui terminent dans l'échappatoire à cet endroit-là. Eh bien Charles Leclerc a été déçu, alors il partira quatrième sur la deuxième ligne et surtout il est devancé par son équipier Lewis Hamilton qui depuis le Canada ouais. depuis le dernier Grand Prix a une monoplace qui lui convient, qui est réglée, qu'il sent bien, il remercie son équipe et là il a réalisé une superbe performance hein. On sait que les Ferrari également s'élancent très bien cette année, elles ont un système technique, enfin je vais pas rentrer dans les détails mais qui non. fait qu'elles s'élancent toujours fort bien, donc avec les deux Ferrari en deuxième ligne, si jamais l'une des deux parvient à devancer évidemment évidemment, Antonelli ou Verstappen, on pourrait avoir un Grand Prix tout à fait passionnant.
Alors, ça chauffe à Vannes. Hein. Vannes qui, depuis plusieurs ouais. minutes, pilonne la défense de Provence ouais. Rugby.
7-0 pour Vannes, 21e minute. Quel rugby d'usure de la part des Bretons. On est au moins une vingtaine de temps de jeu depuis tout à l'heure. Et là, on est à 2 mètres de la ligne. C'est propre, c'est carré. Il y a des cellules côté Vannetais. Un coup les avant, un coup les trois quarts. On est sous les poteaux maintenant. Et je vois pas comment Aix peut tenir. Enfin, il y a un vrai bras de fer très important dans cette première période et si Aix arrive à tenir ce sera bon pour eux pour la suite du match, mais là ça semble un peu inéluctable, il y a deuxième ouais. avantage signalé par monsieur Rousselet. Yann, c'est propre ce que fait Vannes hein, pour ouais. l'instant hein.
Ils sont très patients, ils arrivent à avancer petit à petit, voilà, ils s'excitent pas, ils sont à 1 mètre de la ligne et
ah, ils jouent dans un fauteuil hein, ouais. Michael Roro hein,
oui, c'est... et puis en plus il y a l'avantage en cours donc il y a zéro risque qui est ouais. pris, voilà, mais ils sont vraiment pas loin de marquer, ça donnerait déjà un petit matelas.
Attention, Bézia aura le talonneur en avant. Il a lâché le ballon presque dans l'embut. On va revenir à la pénalité qui sera un peu décalée sur le côté gauche et voir ce que les Vanté vont faire, s'ils vont jouer ce ballon à la main, s'ils vont aller en touche. Vu leur domination, on devrait avoir un scénario comme
c'est
ça.
C'est une finale. Hein. C'est une finale. Ouais. Leur entraîneur leur demande de prendre les 3 points.
Est-ce que Jean-Noël Spitzer, le manager, va être entendu? Tu l'as dit, les joueurs ont décidé sur le terrain. Je suis pas sûr que t'aies beaucoup contredit Guy Noves quand même. Parce que tu savais que dans le vestiaire derrière, si ça marchait pas, tu aurais dit,
Il fallait que ça marche,
Je te demande de prendre les 3 points.
eux, ils écoutent l'entraîneur aussi, toi.
Ouais, voilà. Ils prennent les 3 points.
Visiblement, ils vont prendre les 3 points.
Ouais, ils prennent les 3 points.
Mais surtout,
ils ont un petit matelas déjà. De 7-0, on passe à 10-0. Il y a dans une finale. C'est un petit coup sur la tête de l'adversaire.
Il faut scorer quand on est dominant et
faut respecter le rugby.
Je pense qu'ils ont raison de prendre ces 3 points là dans leur position où ils ont déjà 7 points d'avance, ça fait 10 points d'avance, 2 marques. Sont dominants, ils n'ont pas marqué, il faut prendre ces points là. Après on peut tout refaire. Après effectivement, ils vont en toucher les marques, on aurait tort mais bon.
Oui, 170 points cette saison en Pro D de Maxime Lafage. Et on a le speaker de vanne, vous savez qui fait le silence total dans un AS Vallon. Et vous entendez, c'est passé. 10-0 pour Vannes sur cette pénalité de Lafage. 23e minute face à Aix-en-Provence.
Parfait, Wilfried. On remercie Jean-Luc. Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tiens, je te laisse ce commentaire de Clem qui dit toujours un énorme plaisir de suivre la F1 avec Jean-Luc Roy.
Toujours.
La voix de la F1. Eh oui.
Écoute,
je sais pas quel âge il a, Clem, mais ça fait je remercie longtemps Clem qu'il t'écoute.
Voilà. Écoute, demain on va vivre un beau Grand Prix. Je vais pas le survendre, mais
non, mais tu nous l'as un peu survendu quand même. On avait
non, je voulais bien vendu. C'est pas pareil.
Qui va gagner demain, Jean-Luc? Qui va gagner demain? Tiens, qui est favori?
Écoute, j'ai tendance à te dire, parce que dans 2 cas sur 3, c'est le poleman. Hein, j'ai tendance à te dire que c'est Antonelli.
Ça va être une procession, tu vas voir.
Mais il a passé un quart d'heure à nous dire que le premier qui gagnait pas.
Mais bon, ça s'appelle du teasing pour demain. Soyez là quand même. Soyez à l'écoute avec Jean-Luc Roy, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Luc.
À demain.
Et à demain. On va suivre aussi, bien sûr, ce que fait Brest actuellement, qui tient tête à Győr, Kevin Morand, en handball. C'est le Final Four pour une place en finale en Ligue des Champions.
La 21e minute de jeu, vous entendez le public largement en faveur des Hongroises de Győr, puisqu'on est à Budapest. Győr qui vient de repasser devant 11-10 les Brestoises qui avaient réussi à recoller au score, mais là qui viennent en plus de prendre une nouvelle pénalité de 2 minutes, une suspension temporaire pour l'une de leurs joueuses. Donc ils vont de nouveau être en infériorité. On espère que ça ne va pas faire un trop long trop gros rebours après ces 2 minutes. 21e minute, donc 10 pour Brest et 11 pour les Hongroises de Győr dans cette demi-finale.
Vous l'avez compris, vous restez sur RMC dans l'Intégral Sport pour ne rien rater des événements de la soirée. On parlera bien sûr aussi de cette 26e journée très attendue, la dernière en top 14, pour tout connaître du bilan des barragistes et de ceux qui ne seront pas qualifiés pour les phases finales. On en parlera bien sûr tout au long de cet Intégral Sport. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
François Pinet. Et on se régale, il est 18h30. Merci de nous écouter sur RMC avec Yann Delegue et avec ce match de Pro D2, cette finale entre Vannes et Provence Rugby. On a du suspense, Wilfried Templier à Toulouse.
Ouais, l'essai de Provence Rugby qui relance tout. Il y avait 10-0 pour Vannes après un premier essai de Tacola et une transformation de pénalité de Lafache. Mais là, sur une percée du Fidjien, l'ancien joueur du Stade Toulousain qui est dans son jardin ici à l'Esvalon, c'est Tariki Bitouni Yata. Il arrive à se faire jouer derrière lui avec un relais sublime de Manuel Varero et qui trouve l'ailier, Paul Célio qui va marquer. Et là, attention, parce qu'il y a encore une percée. L'essai était transformé de la part de Varero et ça fait 10-7. Voilà, en avant des Provençaux dans les 22 mètres Vanté, ça fait 10-7 pour Vannes, mais sur une action de classe, Yann, est relancé.
Oui, effectivement, le trois quarts centre fait d'abord une percée, une schistera pour retrouver son super arrière qui lui vient dans le dos. Lui-même est pris à quelques mètres de la ligne et arrive en tombant à retrouver son ailier. Et vraiment
les fameux offload. Ça libère le ballon.
En plus, un peu à l'aveugle les deux fois, donc vraiment des très belles actions.
Magnifique, magnifique essai qui relance tout.
Suspense 10-7 en faveur de Vannes, donc 3 points d'écart seulement. On arrive à la demi-heure de jeu en cette première période. Mais franchement, on se régale dans cette finale de Pro D2. On rappelle aux gens, aux auditeurs, que le vainqueur sera champion de France. Ouais. Non seulement champion de France, mais ira en top 14 l'année prochaine. Et le vaincu jouera Perpignan en match d'accès, comme domicile. On dit, top 14. À domicile en plus. Hein. Soit à Vannes, soit à Aix-en-Provence. Ce sera pas facile pour les Perpignanais. Un match, encore, on parle de dramaturgie. Celui-là sera terrible la semaine prochaine. Attention, la percée de la Terrade. Lance à l'honneur de l'UBB qui va au sol. Et ils sont déchaînés, là, les Aixois. Avec Coville qui se fait un petit peu renverser, mais ils ont un gros temps fort depuis 5 minutes derrière cet essai. Eh bien, ils ont repris vraiment l'ascendant sur l'Eventé. 10 à 7, 3 points d'écart, 31e minute de jeu, et on fait jouer les avants très fort, hein, les avants Aixois qui avaient bien martyrisé les Columérins en demi-finale. Mais là, les Eventé ont récupéré le ballon et ont mis un long coup de pied qui a fait plus de 60 mètres et arrive dans les 22 mètres d'Aix-en-Provence et oblige l'arrière, justement, l'international portugais Guevarero a dégagé en touche. C'est un combat, il y a des crochets, des uppercuts, il va se passer plein de choses.
Ouais, c'est bien.
C'est bien, Yann.
Ouais, c'est bien.
Minutes,
Yann,
10 à 7 en faveur de Van.
Non, mais l'essai des Aixois a permis à cette équipe d'Aix finalement de reprendre un peu confiance. Ouais. Parce qu'ils étaient quand même très
ultra dominés, Yann. Hein, voilà. En territoire, on n'a pas été dans le camp dans les 22 mètres. C'était la première incursion. La deuxième avec la pénalty tout à l'heure, la deuxième dans les 22 mètres 20.
Voilà, et ça leur a fait prendre conscience peut-être cet essai, ça les a peut-être un petit peu libérés en disant bon ben on est dominé ok, mais on n'est pas largué au score. Finalement il n'y a que 3 points d'écart avec cet essai là. Et donc ça leur a donné peut-être un peu plus de confiance pour la suite. Et on l'a vu, ils ont enchaîné quelques phases de jeu intéressantes en trouvant quelques brèches, mais voilà, bon, c'est pas fini encore.
On l'a dit, hein, on peut trouver ça cruel pour Van, hein, qui a surdominé cette Pro D2, de devoir passer par cette finale d'accession. Mais franchement, nous on adore, hein, quand on est Madsen pour Provence Rugby. En tout
attention,
cas,
le coup de pied à suivre dans les 5 mètres Aixois maintenant. Ah, il y aura une pénalité. Il y avait un beau coup de pied à suivre. Il y avait la pression sur la ligne de Provence Rugby, mais on n'a pas le droit d'aller au sol, d'aller se jeter sur le joueur au sol. Et là, en l'occurrence, c'est l'ailier, l'ancien du Racing, Enzo Bemegal, qui a fait cette faute. Ça va permettre à Provence Rugby de se dégager. 32e minute, 10 à 7 pour Van face à Provence. Les deux essais. Tacola pour les Bretons, Célio pour les Provençaux.
Ouais, c'est une faute un petit peu bête, celle-ci. Mais justement, dans ces matchs-là, dans ces finales, ces fautes bêtes, il faut les gommer. Quoi. Et c'est,
lucidité, il y a tête
exactement.
Froide.
Lucidité.
Il y a un entraîneur qui disait cœur chaud, tête froide.
Exactement. Et tu vois, on n'en a pas parlé non plus, mais. Faut pas prendre de carton. Faut pas prendre de carton, ni jaune, ni rouge en finale. Toi, voilà. C'est tellement important. Et là, je regardais les statistiques. Provence Rugby en a pris beaucoup cette année. Ouais. Plus d'un par match.
Ah, c'était un axe de travail, il l'a dit, Philippe Saint-André, hein, qu'il pouvait pas espérer quoi que ce soit.
Ouais, 32
dans
cartons
cette finale,
sur l'année,
hein. Ouais, ouais. Dans cette finale, effectivement, sans plus de discipline. Donc, voilà. On va voir maintenant. On va voir pour l'instant, il n'y en a pas,
hein. Ouais, c'est très bien pour l'instant, ouais.
C'est assez discipliné des deux côtés, oui, d'ailleurs. Mais voilà. Il y a 3 points d'écart, 10 à 7 en faveur de Van, 33e minute. Et on se régale sur cette finale de Pro D2 qui nous annonce une soirée de rugby incroyable, mon cher François.
On en parlera, bien sûr, de cette grande soirée de rugby avec les affiches à suivre en direct à partir de 21h05, et puis bien sûr avant tous les matchs on vous présentera tous les enjeux des 20h. UBB Clermont, Racing 92 Toulouse, Pau Montauban, Castres Toulon, le Loup face à Montpellier, Bayonne Perpignan et La Rochelle Stade Français.
Et on va dire aux gens, François, bien sûr, de mettre leur application RMC Sport dans les stades pour suivre l'évolution, tous les scénarios et tout le monde va être sur l'appli RMC avec tous nos envoyés spéciaux,
évidemment, et puis avec un Wilfried Templier qui va nous calculer tout ça en temps réel.
L'ingénieur.
Il va, voilà, c'est Opta Will, tu sais.
Des chiffres.
Voilà, il n'est pas encore remplacé par l'IA, Wilfried Templier. Attention, mais il est plus fort que l'IA. Plus fort que l'IA, Wilfried
Templier. C'est lui qui l'a inventé.
C'est un peu plus convivial, mais je ne suis pas sûr que c'est plus fort que l'IA. C'est un peu fort.
T'as pas intérêt de te planter, là, on t'a mis un peu la pression pour ce soir. On parlera évidemment de tous ces enjeux avec Yann à la mi-temps, notamment de ce match entre Vannes et Provence Rugby. On va faire aussi un détour par Budapest, parce que il y a là aussi beaucoup de suspense, Kevin Morand, entre Brest et Győr.
C'est tendu parce qu'il y a des suspensions de 2 minutes dans tous les sens et il y a eu un carton jaune, un carton rouge de chaque côté pour Almeida à l'instant, la joueur de Győr, et puis pour la capitaine de Brest, Oriane Andono, il y a quelques instants également. À chaque fois c'est pour des coups de coude en défense. Voilà, donc ça donne une suspension de 2 minutes, hein, et la joueuse ensuite ne peut plus rentrer de la partie, mais il n'y a pas d'infériorité pour tout le match évidemment en handball. Et donc ce score de 15 à 13 en faveur de Győr toujours après 24 minutes de jeu. plus 2 donc pour les Hongroises dans cette demi-finale à suspense étendu. Et Kwatanea qui à l'instant réduit l'écart pour les Brestoises, 15 à 14 donc.
Oh là là, c'est serré tendu, on l'a vu effectivement, même Yann il a cru que c'était rugby en bas là,
de pour là j'ai parlé de ma morse hein.
Le carton rouge pour la joueuse de Gyor était logique hein, avec ces points dans la figure là. Voilà, mais bon, ça lui a rappelé des bons souvenirs à Yann évidemment.
Ouais, bah bon, ou pas.
En tout cas, c'est très serré effectivement entre Brest et Gyor, et on rappelle que Metz s'est qualifié pour la finale. Ça sera demain à suivre en direct avec toi, Kevin Morand, en direct de Budapest, cette finale de Ligue des Champions. Metz qui attend son adversaire, et ça pourrait être donc pour une première finale 100% française. On le souhaite bien sûr aux supporters brestois qui nous écoutent. En basket, juste pour vous dire également que Monaco est largement devant avec 12 points d'avance sur Nanterre, 68 à 46 dans le quatrième carton de cette troisième rencontre de demi-finale de Betclic Elite. La demi-finale, la deuxième, ça sera demain, troisième match entre Cholet et Paris à 19h. On va vivre la fin de la première période avec toi, Wilfried Templier, entre Vannes et Provence Rugby, pour voir si effectivement cette réduction de l'écart de Provence Rugby leur a redonné des ailes pour cette fin de mi-temps.
Attention, on va sur les extérieurs alors qu'on a perdu le pilier gauche côté Provence Rugby. La sortie de Vrexin, l'Argentin, remplacé par Wayne de Benedetis, l'ancien castré. Et ça ne les a pas empêchés sur la mêlée suivante d'enfoncer la mêlée de Vannes. Ils avaient fait subir, on le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, hein, le supplice à la mêlée columérine en demi-finale, les joueurs de Philippe Saint-André. Et bien là, ils récoltent cette pénalité sur leurs 40 mètres. Ils vont pouvoir aller dans le camp des Bretons. Il reste 5 grosses minutes dans cette première période, si vous nous rejoignez sur RMC. 10 à 7 en faveur de Vannes, un essai de chaque côté. Tacola dès le début de match à la 6ème minute pour les Vannetais. C'est Lio, l'ailier qui marque à la 26ème pour les Aixois, et un grand suspense pour le moment. Et attention Yann aux avants Aixois quand même hein, qui sont réputés dans cette Pro D2.
Ah ouais, bien sûr, c'est costaud, et là ils nous ont fait preuve de leur puissance sur la mêlée fermée, alors qu'en face c'est Gaillard aussi, mais là ils ont été dominants sur cette mêlée, pas les précédentes, ça s'est plutôt équilibré sur les précédentes, mais là effectivement ils ont dominé, ils ont récupéré cette pénalité. Et attention, quand on connaît l'adage no scrum no win, on sait jamais.
Ouais. Et peut-être que les Vannetais n'ont pas été assez récompensés de leur domination, bien notamment sûr territoriale, dans cette première période, quand vous laissez un peu de chance à l'adversaire en le dominant outrageusement. Attention, parce que Bitouniyata a ramassé ce ballon et il part dans le côté ouvert. Ils ont du mal à l'arrêter. Quelle puissance de la part du trois quarts centre fidjien. Il est sur les 22 mètres, sur le côté gauche. Coville va aller de la gauche vers la droite, le demi de mêlée qui avait signé, on en reparlera peut-être dans le match, hein, pour Vannes, et qui voudrait peut-être rester avec Aix-en-Provence. C'est un petit problème entre les deux clubs. Et maintenant la percussion de Albert Twissé, le Fidjien. Ils font mal les Aixois au Vannetais. La balle au milieu du terrain avec le trois quarts centre néo-zélandais Finao qui donne à Coville. Maintenant on rejoue avec les avants, avec Isaac Roda, l'Australien. On n'a pas trop avancé, on a été, on renverse maintenant de la droite vers la gauche. La défense Vannetaise est en place, mais on sent les Aixois vraiment à l'affût d'un moindre occasion. Non, il n'y a pas dans l'avant, c'était derrière, le petit coup de pied à suivre, bien joué, signé Varela. Ouh, il y a eu un petit plaquage de haut, il y a eu en avant, mais il me semblait que Boutier, qui s'est fait mal à l'épaule d'ailleurs, est venu mettre un petit coup d'épaule à Célio, l'ailier Aixois. Je ne sais pas si l'action te parle. Bon, ah, c'était succinct, mais ouais, il y a pas... en avant Aixois est mêlé pour Vannes.
Ça avait l'air dans l'action. Hein, dans
ouais, ça
ne
m'a pas frappé. Ouais, ouais,
on va revoir ça.
Par contre, Boutier, effectivement, est au sol. Je ne sais pas s'il s'est fait mal. Ou...
Ah, il s'est fait mal à l'épaule, hein, et sur le coup. Et il me semblait qu'il avait pris l'arrière Varero un peu haut. On verra hein, si c'est revu. En tout cas, il y a occasion gâchée pour Provence Rugby, mêlée pour Vannes dans les 22 mètres. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout, mais on va surveiller
ouais,
aussi.
Il le touche, mais c'est léger. Hein, c'est très léger. Hein.
Bon, écoute, et ça a l'air d'aller pour Anthony Boutier, on le rappelle, hein, champion de France avec Montpellier en 2022.
International.
Et de retour international. Et de retour à Vannes, hein, où il évoluait avant d'aller à Montpellier. La caution expérience aussi dans les lignes derrière de Vannes. Et finalement, on va jouer une mêlée en faveur de Rourou. Le demi de mêlée, sérieux marqueur, hein, Rourou. 14 essais. Meilleur marqueur de Vannes pour un demi de mêlée. C'est quand même incroyable. Ouh, la grosse poussée! La grosse poussée de Aix. Ah, on a sorti le ballon rapidement, heureusement, pour les Vannetais. Et Calamafoni. parce que là il va falloir régler ça hein, la mêlée Vantes, Yann, il va falloir que régler ça, je sais pas si c'est possible, mais la domination aixoise est assez impressionnante. 2 minutes à jouer dans cette première période, le coup de pied de dégagement dans la boîte de Roux qui va trouver Célio, l'auteur de l'essai dans cette première période pour les Provençaux. On est sur les 40 mètres des Bretons. On vient maintenant avec le nouvel entrant. C'est Nostad, le pilier gauche allemand, Julius Nostad. Un petit peu de tergiversation côté aixois. On est aussi, je te parlais Yann, du côté assez cadré hein, du jeu Vanté et tout, mais on est pas mal côté aixois aussi hein, on sait où on va, et là quand on n'avance pas, il y a Coville qui rameute ses avants, il faut bien resserrer cette défense Vantes.
Ouais, exactement. Et ils ont pris confiance sur les derniers matchs. Hein. Ils sont conscients de leur force, notamment de leur puissance. Donc voilà, ils ramassent ces ballons au près avec leurs avants et ils arrivent à grappiller du centimètre. Les phases finales, souvent on dit c'est la bataille du centimètre. Mais là, c'est ça. Ils arrivent à avancer tout doucement sur cette équipe de Vannes. Et puis derrière, quand ils écartent, ils sont pas mal aussi.
Allez, Nostad justement qui vient en percussion, ça va ouvrir avec à nouveau la deuxième ligne, Andrés Zafra, le Colombien, le capitaine de cette équipe. Ouh, il y avait limite une petite faute Vantes au sol. Finalement, on va donner. Il y a eu un plaquage, on a touché ce ballon. Est-ce qu'on n'a pas fait un en avant côté breton? Finalement, on laisse l'avantage aux Aixois avec Varero justement qui plonge, qui retrouve intérieur. Il y a beaucoup à jouer. Ça c'est pas mal intérieur. Oh, Coville qui fait en avant, 2 contre 1. Remise intérieure de Finao pour Coville. Il fait en avant alors qu'il y avait un boulevard pour aller marquer dans les 22 mètres. Aïe, 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 c'était bien amené, hein.
Ah ouais, grosse occasion là. Si Coville rattrape ce ballon, je pense, parce que c'est quand même un joueur rapide.
Il est lancé, ouais.
Ouais, je pense qu'il allait jusque dans le but. Et faut pas louper ces occasions non plus. Mais bon, ils en ont loupé des deux côtés. Hein. Van en a loupé aussi à très proche de la ligne. Mais là, c'était une vraie occasion avec une remise intérieure effectivement. Et s'il rattrape ce ballon, il avait un peu moins de 20 mètres à faire, à mon avis. C'était un essai pour les Provençaux.
Mais ouais. Yann, il y a un petit renversement quand même dans cette première période. Hein,
On a vu Philippe Saint-André pas content du tout là sur cette action.
Bah, il sait qu'il faut faire le
plein. Lui, il l'aurait rattrapé à l'époque. Hein, ce ballon, hein. Il l'aurait pas laissé échapper.
À l'époque.
À l'époque, hein, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas.
On lui dira.
Oh, c'est gentil. Il fait un clin d'œil, un coucou. Hein, Philippe, sacré ailier, capitaine du 15 de France quand même.
Eh oui.
Non, mais c'est vrai. Yann en a eu 20-25 premières minutes avant l'essai soit à la 26e, domination outrageuse de la part des Vantes qui, et là d'ailleurs il y a un changement côté Vantes, la sortie du pilier droit, bah, c'est peut-être la résultante de, je sais pas s'il est blessé, l'Argentin Santiago Medrano, ah si il boite, il sort, c'est pas la résultante hein. C'est pas un coaching en mêlée pour que ça aille mieux, vraiment il traîne la patte là, l'international argentin, 33 sélections pour Medrano, et il est remplacé par Nicolas Skonner, le Sud-Africain.
On va voir si ça va stabiliser un petit peu cette mêlée ou pas.
Voilà, ça nous donne une mêlée pour Van dans son camp sur ses 22 mètres. On regarde le chrono, 1 minute à jouer dans cette première période de cette finale de Pro D2 pour le titre, pour l'accession en top 14. La poussée aixoise, mais on résiste bien côté Vanté. Et ça y est, c'est sifflé pénalité pour Van. Alors, le chrono, il y avait, où j'ai mal vu, mais on est arrivé sur la 40e minute. Là, vous avez entendu, hein, c'est la mi-temps. Il y a pénalité pour Van. Yann, est-ce que les Vantes, ouais, ils vont aller en touche. Il a joué en deux temps, ils sortent le ballon, non, ils vont bénéficier de la touche qu'ils vont trouver sur.
Bah, si la touche, ils la trouvent dans le camp.
Ils étaient dans leur 22. C'est la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'on le joue en deux temps, on dégage, c'est la mi-temps, ou est-ce qu'on va chercher une possession dans le camp
Là, il a cherché une possession, mais finalement, il a trouvé une touche en immédiate, donc. On va voir si le ballon est propre. Ils vont peut-être enchaîner un premier temps de jeu et suivre la libération rapide ou pas du ballon.
Voilà. Alors, juste avant de vivre cette dernière action pour la première période, c'est la mi-temps au handball hein, dans ce Final Four et dans cette deuxième demi-finale entre Brest et Győr. Kevin Morand à Budapest.
Ouais, ce sont les Hongroises de Győr qui sont devant 17 à 16, un petit but d'écart donc en défaveur des Brestoises, mais qui restent au contact, et pourtant il y a eu des scories, il y a eu des pertes de balles en situation offensive un peu dommageable pour ces Bretonnes, mais elles sont au contact des doubles tenantes du titre européenne de Győr, 17 à 16 donc en faveur des Hongroises à la mi-temps.
Eh bien, ça nous promet du suspense pour cette deuxième période. À tout de suite Kevin, et c'est la mi-temps également.
Ouais, on est coordonné.
Entre Vannes et Provence Rugby, finale de Pro D2. Wilfried.
Oui, parce qu'ils ont été chercher la touche, mais l'avancée n'était pas forte dans le groupé pénétrant. On a donné le ballon à Maxime Lafage qui a sorti le ballon en touche. Et donc, c'est la mi-temps sur ce score de 10 à 7. 3 points d'écart entre les deux équipes. Un essai de chaque côté. Tacola pour les Bretons et Célio pour les Provençaux. Je ne sais pas si ça reflète la première période, mais en tout cas, Aix-en-Provence s'est un peu rebellé.
Oui, exactement. Effectivement, Van a plutôt été très dominant sur 25-30 minutes. Mais les 10 dernières minutes de cette première période, c'est quand même Aix qui a réagi, qui a mis cet essai. Ça leur a donné du baume au cœur et ça leur a peut-être enlevé quelques complexes aussi. Et Aix est bien rentré dans son match et a été dominant pour le coup sur les 10 dernières minutes.
Donc
le
match, tout est possible.
Voilà, c'est très très ouvert, 3 points d'écart. Là,
c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime sur RMC. On va se régaler. Merci beaucoup, Wilfried. À tout à l'heure.
C'est le fil pour la soirée, le suspense.
Ah, bah oui, ouais, magnifique pour la deuxième période. À tout à l'heure.
Le meilleur du rugby sur RMC avec Total Energy, partenaire officiel du Top 14 et supporter officiel de la Pro D2.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et justement, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va parler de rugby et de cette grande soirée. 21h05, les affiches du Top 14 pour connaître tous les barrages d'ici ce soir sur RMC. On va en parler avec Yann Delegue, membre de la Dream Team Rugby d'RMC. On va parler notamment des Rochelais. Ça pourrait être un miracle Rochelais ce soir. On va en parler avec Romain Asselin dans un instant. La Rochelais Stade Français, c'est une des affiches qu'on vous propose ce soir. Et puis juste pour vous dire également que Monaco s'envole vers une deuxième victoire dans cette demi-finale de Betclic Elite. Pour l'instant, 76-58. Il reste 1:30 dans cette troisième rencontre de demi-finale. À tout de suite sur RMC, restez avec nous.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
18h51, merci de nous écouter sur RMC. Merci beaucoup pour vos messages également. Je salue Mathieu qui est sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, pour vivre avec nous ce début de soirée passionnant, puisque en ce moment à la pause, Van mène 10 à 7 face à Provence Rugby. C'est la finale de Pro D2 et forcément, on le sait, on le rappelle, le vainqueur ira directement ce soir en Top 14. Le finaliste malheureux aura encore une deuxième chance la semaine prochaine face à Perpignan pour essayer d'accéder au Top 14. Et puis Brest à la mi-temps est mené d'un but seulement face à Győr. Ce sont les demi-finales de Ligue des Champions en hand féminin. On rappelle que Metz s'est qualifié pour la finale et attend son adversaire. Ça sera demain à la finale, donc ça peut être une finale encore 100% française, Metz face à Brest. À suivre dans quelques instants, Monaco s'est imposé également pour le troisième match face à Nanterre. Victoire importante de Monaco qui s'impose face à Nanterre et qui prend les devants désormais dans ces demi-finales de Betclic Elite. 2-1, 2 victoires à 1 pour Monaco qui a une victoire de la qualification en finale. Ça pourrait être lundi un nouveau match à Nanterre, entre Nanterre et Monaco. Deuxième demi-finale demain. Il y a un partout entre Cholet et Paris. On suivra ça à 19h demain. Mais ce soir, c'est la grande soirée de rugby, Yann, avec la dernière journée du Top 14. On connaîtra tous les barragistes ce soir. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. On vous expliquera tout. 21h05, les affiches UBB Clermont. On en parlera d'ailleurs dans la deuxième heure de cette intégrale sport. Racing 92 Toulouse. Pau face à Montauban. Castres Toulon. Le Loup face à Montpellier. Bayonne face à Perpignan. Et La Rochelle Stade Français. On va tout de suite en parler de cette rencontre importante pour les deux équipes avec Romain Asselin. Salut Romain.
Salut. Salut François, salut Yann, salut tout le monde.
Ah oui, parce que La Rochelle est dans la course pour une place de barragiste. Oui, c'est assez incroyable de le dire comme ça, vu la saison galère qu'ils nous ont proposée et qu'ils ont parfois vécue. Pour être très clair, rappelle-nous quand même les conditions pour que les Rochelais soient dans les 6 ce soir.
Alors, il faut gagner, même s'il y a des cas de figure où un match nul pourrait suffire, mais on ne va pas s'embarquer dans tous les cas de figure. Il faudrait gagner, mais il faut quand même dire qu'un bonus offensif ne garantit pas la qualification à La Rochelle, qui n'a toujours pas son destin entre les mains. Ça fait des semaines que ça dure. Ils pensaient que ce serait le cas pour cette dernière journée parce qu'ils ont fait le job à Montauban la semaine dernière, sauf que le lendemain, Bordeaux est venu prendre un bonus défensif à Toulon et donc est repassé devant. Et le Racing s'est imposé à la surprise générale à Clermont et donc est repassé devant également. Donc il faut gagner, mais en ayant un œil, sans doute, c'est ce qu'ils vont faire les Rochelais dans les 20 dernières minutes sur ce qui va se passer à Chabans entre l'UBB et Clermont, et puis à l'Arena entre le Racing et Toulouse. Des Rochelais supporters toulousains, tiens, c'est rare quand même, Yann. Et voilà, ça pourrait ne pas suffire, quoi.
Ouais, mais c'est ça qui est terrible, c'est que La Rochelle, ils sont pas maîtres de leur destin. En fait, on a deux équipes, La Rochelle et Clermont, qui sont pas maîtres de leur destin, alors que l'UBB et Racing sont maîtres de leur destin. Ça peut faire la différence quand même. Mais tu l'as dit, faudra aller chercher le bonus si le Racing ne gagne pas ou ouais. ou si l'UBB n'a ouais. pas, a pas
de
bonus.
Est-ce que tu peux aller chercher le bonus face à cette équipe de Paris-là?
Ben c'est ça, c'est que je pensais moi que l'équipe très de Paris armée, hein. allait faire tourner un petit peu l'effectif pour se concentrer sur le prochain barrage, a priori à domicile.
Ils ont quand même à jouer la deuxième place, hein, le Stade français. Hein.
Ouais, exactement. Je pensais
pour
pas qu'ils allaient
la troisième.
Ouais, je pensais pas qu'ils allaient aller la jouer. En se disant, ouais. on va concentrer nos efforts sur la semaine prochaine au barrage. Et finalement, vu l'équipe qu'ils ont, effectivement, ils vont la chercher.
Ils ont tout intérêt à le faire. Si tu regardes leur mois de mai, ils ont joué des mal classés. Ils ont joué Bayonne, Montauban, Lyon. Leur dernier gros match, c'était contre Pau. Ça remonte, hein, c'est il y a plus d'un mois. Donc à un moment, ils ont aussi besoin d'étalonner leur cadre face à une équipe qui est en pleine bourre, La Rochelle, qui est un prétendant comme d'autres au Brennus, même s'ils ne sont pas encore qualifiés.
Tu as
besoin de te rassurer.
Ouais, c'est vrai, mais tu peux aussi
parce que si
pas
tu
te rassurer.
Si tu prends une pilule.
Si tu prends une pilule, mais que t'as pas mis tes forces vives, comme c'était le cas au Racing quand ils ont fait tourner il y a un mois et demi à peu près, juste avant le match.
Ah, mais pour la confiance quand même. Sachant qu'il y a une possibilité que tu retrouves La Rochelle aussi en barrage. C'est pour ça. Il y a tellement de calculs, il y a tellement de possibilités ce soir. C'est quand même complètement dingue. Hein. Ouais. Et on en parlait hier dans le podcast Entre les poteaux, dans l'apéro des poteaux. Tu m'arrêtes si je me trompe, Yann, mais ça fait quand même pas mal de saisons qu'il n'y a pas eu un tel suspense pour le Brennus à la dernière journée.
Ouais.
Effectivement, Toulouse va sans doute se réveiller en phase finale, mais quand même, on a l'impression que c'est très ouvert et que tu as quasiment 8 équipes qui peuvent jouer le titre. C'est quand même fou.
Ouais, t'as raison, parce que Toulouse, on les sent un peu moins bien ces dernières semaines. Donc on se pose quand même des questions, même si on sait que c'est une équipe en phase finale qui est quand même difficile à battre, mais quand même on se pose cette question là on les sent pas trop dans leur assiette. Bordeaux, on les sent très très bien, sauf qu'on sait aussi qu'ils sont usés physiquement, parce que entre la campagne européenne, ce
championnat... Alors eux vont te dire que non. Yannick Brume disait hier non, pas du tout, encore moins que la saison dernière. Bon, mais après
toujours est-il qu'il y a quand même 2-3 joueurs blessés importants.
C'est sûr.
Big Ben, Jalibert, Deportier qui est pas là,
Woki est pas là, toujours
pas là, voilà. Donc quand même. Et les autres font forte impression, notamment à l'image du Racing la semaine dernière. Montpellier, c'est ça sur ses derniers matchs. La Rochelle sur les derniers matchs aussi. Donc ouais, t'as raison, ça nous paraît très ouvert pour le Brennus. Ouais.
Bon, en tout cas, déjà, il faudrait pour ça que La Rochelle aille un peu plus loin, pour espérer, pourquoi pas, et ça serait miraculeux de remporter le championnat vu l'inconstance cette saison.
Ils étaient 10e en février.
Oui.
Ouais, mais il y a deux mauvaises nouvelles pour moi pour La Rochelle. C'est d'abord, on vient d'en parler. C'est donc que l'équipe de Paris mène quand même une grosse équipe, donc ça va pas être simple. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que les Toulousains, je trouve qu'ils font quand même beaucoup tourner au Racing.
Ouais. Et donc effectivement
avec un gros banc quand même.
Le Racing devra
faire le taf pendant la première heure de jeu, parce que je sais pas si t'as vu le banc toulousain, mais ouf.
Tu veux, il y a quand même beaucoup d'absents dans des cadres à Toulouse, et on sait très bien, même si je dis ça, mais on sait très bien que les Toulousains, même avec les espoirs, ça leur est arrivé en envoyant du jeu partout, et encore plus sur ce terrain synthétique, de gagner quand même avec les gamins, quoi. Donc c'est pas une garantie que le Stade Toulousain fait l'impasse, pas du tout.
Bon, en tout cas, vous avez compris, hein, il faudra suivre ça.
Ah oui, ça
20h bien sûr, on reparlera des enjeux, 21h05 avec toi Romain Asselin au commentaire de ce La Rochelle Stade Français, doublement intéressant pour les Rochelais, pour la qualification pour les barrages, et pour le Stade Français qui a encore à jouer cette deuxième place. On le rappelle, hein, d'ailleurs, la deuxième place, ça leur permet quand même d'être pendant une semaine tranquille. Alors tranquille, évidemment, ils vont préparer le match. Mais bon, semaine sans match, ça compte quand même. Hein. Ouais, ça peut compter. Et d'attendre l'adversaire pour les demi-finales.
Faut dire aussi quand même qu'ils sont pas bêtes de leur destin, les Parisiens.
Et oui.
C'est-à-dire qu'ils peuvent gagner.
Parce qu'à Montpellier,
mais si Montpellier gagne aussi, c'est.
Et qui joue face au Loup qui n'a plus rien à jouer. Voilà,
s'il y a égalité de points au classement, c'est le goal average qui prévaut. Et Montpellier a plus 24 aujourd'hui. Donc quand même, ça paraît compliqué.
Allez, merci beaucoup, Romain. Merci et très bonne soirée rugby à toi. On reparle bien sûr de tous ces enjeux du top 14, je vous l'ai dit, et notamment de cette affiche entre l'UBB et Clermont. Ça sera dans la deuxième heure de l'Intégral Sport. Vous restez avec nous, la reprise dans un instant à Toulouse entre Vannes et Provence Rugby, 10-7 pour les Vannetais. Et puis la reprise aussi au handball dans quelques instants. Brest face à Győr, il y a encore du suspense, un but d'écart seulement entre les deux équipes pour une qualification en finale de Ligue des Champions. On va parler foot aussi avec Valentin Jamin qui a pu assister à l'entraînement des Bleus. Est-ce que tout va bien pour l'équipe de France à quelques jours de leur départ pour les États-Unis? On en parle avec notre reporter dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
L'Intégral Sport avec Yann Delegue et avec du rugby au programme. C'est reparti entre Vannes et Provence Rugby. La deuxième période, Wilfried Templier, avec du suspense prévu pour cette finale de Pro D2.
Effectivement, il y a 10-7 à la mi-temps. Ça vient de repartir à l'instant. entre Vannes et Provence Rugby. Évidemment, Yann, on imagine le discours de Philippe Saint-André à la mi-temps face à l'ultra favori Vannes. Ils sont toujours vivants, les Aixois, ils sont là, malgré la domination vannaise.
Ben bien sûr qu'ils sont là, ils sont bien là. Effectivement, que 3 points d'écart, ils ont dominé les 10 dernières minutes de la première période. Donc, il y a tout pour y croire. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose aussi. Il y a à peu près un mois, Aix recevait Vannes et ils avaient gagné 34-31 contre cette équipe de Vannes.
Peut-être dans
en
les
étant
têtes.
Menés 24-0 à la mi-temps, les Bretons
27-0,
menaient
24, je crois.
Ouais, 27-0 à un moment et ils gagnent 34-31. Tu as raison, ils avaient perdu à l'aller 40-7. Il n'y avait pas eu de match en Bretagne, mais voilà, pour vous dire que les Aixois sont capables de renverser le leader incontesté, 116 points. On le rappelle, tu l'as dit, 24 victoires, seulement 5 défaites cette année pour Vannes. Mais il y a le match qui compte, c'est celui-là, c'est ces 80 minutes en finale de Pro D2. Donc 10-7, 3 points d'écart entre les deux équipes, 2 minutes 30 de jeu en deuxième mi-temps.
Et on va se régaler tout au long de cette intégrale sport grâce aux Andes et notamment aux filles de Brest qui pour l'instant font jeu égal avec Gyor, double tenante du titre de Ligue des Champions pour une place en finale. Kevin Morand à Budapest.
C'est reparti depuis 3 minutes 40 dans cette seconde période et Brest était revenu à égalité 20 partout, mais là Houcher vient de redonner l'avantage sur un jet de 7 mètres aux joueuses hongroises, 21-20 donc, mais les Brestoises sont bien au contact des doubles tenantes du titre hongroise de Gyor. Donc la dernière fois que ces deux équipes s'étaient affrontées en Final Four, c'était en 2021. Brest avait remporté cette demi-finale au tir au but contre Gyor et donc avait disputé la seule finale pour l'instant d'un club français. Il y en aura forcément une demain puisque Metz s'est qualifié un peu plus tôt, peut-être une finale 100% française et donc peut-être une première victoire en Ligue des Champions pour un club français. On verra ça. Pour l'instant donc on est à 21-20 en faveur de Gyor face à Brest après 35 minutes de jeu.
Magnifique, on va suivre ça bien sûr de très près avec toi Kevin, et puis aussi on va prendre la direction dans cette intégrale sport. C'était une promesse de Claire Fontaine puisqu'on est maintenant à 5 jours du début de la Coupe du Monde. C'est aux États-Unis que ça se passe, vous le savez, au Mexique et au Canada. D'ailleurs premier match au Mexique, ça sera jeudi à suivre sur RMC, Mexique-Afrique du Sud, le match d'ouverture à 21h. On va retrouver Valentin Benjamin qui est à Clairefontaine, qui suit les Bleus pour RMC. Salut Valentin.
Salut. Salut à toutes et à tous.
Oui, parce qu'il y avait un entraînement aujourd'hui, entraînement ouvert au public, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y avait sans doute des chanceux qui sont venus encourager les Bleus avant leur départ, leur grand départ pour la Coupe du Monde. Il y aura un match lundi à Lille, demain ils partent à Lille, mais d'abord donne-nous des nouvelles de l'entraînement, c'est en ce moment, hein.
Alors c'est en cours, il est en cours cet entraînement effectivement ouvert au public qui sont ses supporters dans la tribune. La bonne nouvelle c'est que tout le monde est là, les 26 bien. Puisque depuis le début certains joueurs étaient un peu ménagés, on pense à William Saliba qui était gêné au dos, hier Upamecano et Lacroix également, Maxence Lacroix ont couru avec un préparateur physique avant d'aller en soins. Tout le monde participe à cette séance. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On a commencé par un échauffement, ensuite il y a eu un taureau, la séance est assez légère hein. Et puis on vient de finir une petite opposition sur un quart de terrain avec les buts victoire de l'équipe bleue avec ce chant trop facile pour célébrer. Donc ça chambre beaucoup, il y a beaucoup de sourires. Et là, sous mes yeux, William Saliba qui parle avec Cyril Moine, le préparateur physique, et Didier Deschamps. Donc pour le moment, il a participé à toute la séance. On en saura un petit peu plus sur son état de santé vraisemblablement dans les prochaines heures. Mais les nouvelles sont bonnes, l'ambiance est bonne également, et donc tout le monde est sur le pont à Clairefontaine aujourd'hui. Petit événement quand même, François. Dernière séance ici et pour Deschamps et son staff.
Bien sûr.
Après direction Lille et après direction les États-Unis.
Voilà, il y aura la dernière de Deschamps. Ça sera à Lille, tu l'as dit lundi. Avec cette question quand même, tu nous parlais de Saliba qui est a priori un titulaire en puissance. Est-ce que Didier Deschamps mettra l'équipe type, l'équipe qu'il imagine alignée contre le Sénégal, parce qu'il l'a dit, il a déjà son équipe dans sa tête, on l'imagine un petit peu aussi, on a quelques idées, mais est-ce que ça sera pour lui l'occasion justement de la tester face à l'Irlande du Nord lundi?
Ouais, alors l'idée en tout cas c'est clairement de s'en rapprocher, déjà l'équipe alignée face à la Côte d'Ivoire on était peut-être sur deux tiers d'une équipe type, mais là l'idée c'est quand même de monter en puissance et de faire jouer si possible le plus de joueurs qui sont susceptibles de débuter face au Sénégal le 16 juin, et vu que tout le monde semble être plutôt en forme, on va vraiment s'en rapprocher grandement. Donc on peut imaginer bien sûr Mike Maignan dans le but, à gauche de la défense Théo Hernandez avait commencé face à la Côte d'Ivoire, on devrait voir Lucas Digne à droite, Jules Koundé. Upamecano, bon, le petit point d'interrogation, Saliba, puisqu'on prendra quand même pas de risque, on rappelle qu'il était gêné au dos, le défenseur d'Arsenal, donc soit lui, soit Konaté ou Maxence Lacroix. Le milieu de terrain de Tchouaméni, Rabiot, pour l'instant, c'est la paire que préfère Didier Deschamps. Et puis en attaque, Dembélé, là, on l'a vu également, il avait un rôle un peu plus libre dans l'opposition, il est à 100%, il vient de frapper au-dessus, d'ailleurs, sur les exercices de frappe, il sera à droite, avec Olise dans l'axe, mais on sait que ça permutera beaucoup. En pointe, Kylian Mbappé. Et puis la petite interrogation qu'on a, c'est sur le poste d'ailier gauche, puisque si Doué est indiscutable avec le PSG, il ne l'est pas encore, en tout cas il n'a pas de match et de statut de favori, de match référence avec les Bleus. Donc est-ce que ce sera lui ou est-ce que ce sera Barcola qui aura la préférence, à voir lundi. Mais l'idée, c'est quand même vraiment vraiment de se rapprocher de l'équipe type.
Ouais, bien sûr, avec donc ce match lundi à Lille, pour dire au revoir à Didier Deschamps, le public français lui dira au revoir. Il y aura sans doute un hommage, comme il y avait eu à Nantes pour le match face à la Côte d'Ivoire. Forcément, hein, on reste sur une défaite contre la Côte d'Ivoire, donc partir avec une victoire, c'est quand même mieux pour les têtes. Le programme justement des Bleus jusqu'à ce match, qu'est-ce qui va se passer, Valentin, jusque
là? Ça va arriver vite, hein, et là il s'entraîne encore, donc l'entraînement a commencé il y a une petite heure, on est sur des exercices de frappe avec Robin Isser dans la cage, et puis ce sera terminé. Ensuite, les Bleus ce soir vont passer la soirée à Clairefontaine, ils vont demain après-midi en direction de Lille. Il y aura entraînement en fin de journée et conférence de presse de Didier Deschamps et d'un joueur qui sera peut-être le capitaine Kylian Mbappé, et derrière le match face à l'Irlande du Nord lundi soir. Donc ça va arriver très vite, c'est dans 48 heures. Les joueurs sont au repos mardi, rien de prévu avant le grand départ mercredi, à 6 jours d'affronter le Sénégal. Donc tout va s'enchaîner pour l'équipe de France.
Bon, en tout cas, Ali nous dit sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, les Bleus, ça va aller. Le pire adversaire pour cette équipe, c'est elle-même. Ça va se gagner dans les vestiaires et dans l'ambiance du groupe plutôt que sur le terrain. Ali,
les supporters,
est assez
on en a vu avec David Alias là, ouais. notre reporter également, pas du tout inquiet. Honnêtement, il y a beaucoup de sérénité. On nous dit c'est un match de préparation.
C'est
il a fait beaucoup
de tournées.
C'est
ça le plus inquiétant, j'ai envie de te dire.
On a un des meilleurs effectifs du monde. Ouais, donc ouais, honnêtement, ouais. Là, les gens étaient très convaincus, ouais, que ça se passerait bien pour les Bleus, ouais, qu'ils iraient au moins dans
le dernier.
Ils
étaient nés en 2002, non?
Certains, oui.
Parce que...
mais certains n'ont peut-être même pas vécu 2010, 2014, donc non.
Ouais, 2002, on se souvient, on était arrivé en grande confiance. Yann, t'étais pas né, tu t'en souviens pas,
bah
forcément.
Ouais.
stop les chats noirs, François. Stop,
oui,
les chats noirs.
Tu as raison, toi. Il faut être confiant, bien sûr, avec cette équipe. Merci beaucoup, Valentin. Et on suit le destin des Bleus. On suivra d'ailleurs la conférence de presse demain à 17h de Didier Deschamps et donc peut-être de Kylian Mbappé. Restez connectés, restez à l'écoute d'RMC. On vous donne des nouvelles de l'équipe de France tous les jours sur RMC et sur rmcsport.fr. Des nouvelles aussi des autres équipes. Je vous dis que la Belgique s'est imposée. On a suivi ça sur RMC pour son dernier match de prépa avant de rejoindre les États-Unis. Victoire 5-0 face à la Tunisie. En revanche, évidemment, pour Sabri Lamouchi, le sélectionneur tunisien, c'est une victoire qui fait mal. Et ce soir, il y a Portugal, Chili, notamment 19h45. On suivra l'Allemagne qui joue face aux États-Unis à 20h30. Et puis l'Angleterre face à la Nouvelle-Zélande à 22h. Et pour les couches tard, Brésil, Égypte à minuit et Argentine-Honduras à 2h du matin. Je suis sûr que Wilfried Templier ne sera pas couché parce qu'il a une grande soirée. Donc il va regarder tout ça également. Wilfried, ils sont gentils, ils ne nous ont pas perturbés pendant ce point sur l'équipe de France, nos amis Van Tay et Provenceau.
Effectivement, toujours 10 à 7 pour Van, 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Un peu de coaching, Yann, côté que soit surtout, hein, l'entrée des deux piliers, enfin l'entrée du pilier droit, Elliot Niemcy, à la place de Thomas Francis. On a sorti Isaac Rodal, deuxième ligne, remplacé par Yannick Youyout, passé par le Stade Toulousain, ici Youyout. Et en troisième ligne, le Fidjien Twissé a laissé sa place à Harrison. Parce que Provence a un match en plus, hein, effectivement, a joué un match de barrage, gagné face à Brive, avant de battre Colomiers en demi-finale. C'est une très longue saison, Yann. Hein. Il faut gérer les corps et les têtes aussi.
Ouais, faut gérer le physique évidemment, mais faire le coaching à la 45e, c'est quelque chose qu'on voit couramment maintenant en top 14 ou en pro D2. C'est vrai que c'est bien de remettre un peu de fraîcheur dans l'effectif et surtout pour faire une bonne entame de deuxième période. Là, pour l'instant, on joue depuis 5 minutes.
Il y a un nouveau round d'observation en deuxième mi-temps.
C'est très équilibré.
Ça va commencer à se tendre, Yann, aussi un peu.
Eh ben ouais. alors j'espère pas tout de suite quand même, mais effectivement pour l'instant c'est voilà, les deux équipes font pas grand chose.
Oui, ouais. Après plus le match avance, plus j'ai envie de dire que ça peut profiter à Provence Rugby, parce que quand on a le statut, oui, de Vannes, le statut quand même de super favori de ce match, voir l'adversaire rester dans les clous, rester debout et toujours vivant à quelques minutes de la fin, ça peut quand même avoir un impact psychologique. Non, non,
quand on a été premier toute la saison avec 20 points d'avance et qu'on est voué à monter en top 14, évidemment que les favoris ont plus de pression au fur et à mesure de la partie, si jamais ils n'arrivent pas à s'envoler au score. Donc non, t'as raison, eux ont tout à perdre et ouais, les Provençaux un peu moins. Ouais.
Exactement, 17 donc pour Van Wilfried.
Il y a du coaching côté Vanté, hein, aussi. Hein. Ouais, ouais. On vient de faire rentrer David Thierry, le talonneur écossais, et en deuxième ligne Timothée Mezou et Joe Edwards en troisième ligne. Voilà, il faut mettre un peu les, voilà, il y a un jeu de manager là, mettre un petit coup de peps de chaque côté. 10 à 7, 3 points d'écart, 50e minute, mêlée pour Van sur les 35 mètres d'Aix-en-Provence. Il y a eu pas mal, quelques fautes de main sur les 10 dernières minutes. Je pense que Yann, le premier qui va mettre le coup de poignard là dans la défense de l'autre, ça peut être pas décisif, mais prendre l'ascendant psychologique, tu l'as dit François. On va commencer à regarder le chrono, on va commencer à penser le top 14 est pas loin, on l'effleure mais on n'y est pas. C'est tout le suspense, on le répète, la dramaturgie des finales en rugby. Ouais. Que là ça donne un ticket pour l'étage au-dessus.
Et là l'occupation du terrain va être hyper importante. Je pense qu'on va avoir pas mal de jeux au pied pour aller vraiment chez l'adversaire à chaque fois. Et puis après la discipline va être un secteur fondamental aussi pour ces 30 dernières minutes.
Bon, ça va être serré également jusqu'au bout. On l'a bien compris en handball, c'est le Final Four. On suit avec Kevin Morand qui est à Budapest pour RMC ce Final Four, puisqu'il y a deux équipes françaises qui étaient engagées en demi-finale. Si vous n'étiez pas là, on vous le répète, hein, Metz sera en finale, première finale de Ligue des Champions pour le club de Metz, qui est un des clubs dominants du handball féminin en France, mais qui s'était toujours heurté à ce plafond de verre en Ligue des Champions. Et Metz pourrait retrouver un autre club français, Brest, qui bataille face à Győr, le club hongrois, en demi-finale. Kevin Morand,
41e minute de jeu ici à Budapest, 24 à 23 en faveur de Győr. Mais là, Vikireva, la russe, la star russe de cette équipe de Brest, qui égalise sur un jet de 7 mètres, 41e minute, 24 partout. Donc tu disais que Metz dominait le handball français, mais Brest a gagné le titre de championne de France la semaine dernière. Les deux clubs ont fini à égalité de points. C'est seulement le nombre de buts marqués à l'extérieur sur leur double confrontation directe dans la saison qui a fait la différence, parce qu'elles sont loin, loin au-dessus des autres. 16 points d'avance sur le troisième, ces deux équipes de Brest et Metz au championnat de France. Donc voilà, ce sont deux locomotives pour le championnat. Et attention là, l'autre qui va partir en contre et qui va avoir l'occasion de prendre l'avantage. Ça y est, oui, 25 à 24, les Brestoises qui repassent devant pour la première fois depuis le tout début de match dans cette demi-finale, après 42 minutes de jeu. 25-24 en faveur de Brest.
Oh là là, on n'est pas loin là d'une finale 100% française. Je ne veux pas leur porter la poisse, mais franchement là on a vécu peut-être un des tournants de ce match. On revient te voir bien sûr très régulièrement, Kevin, parce que voilà, les Brestoises ont pris les deux d'un but seulement face à Győr. Il va falloir être solide pour évidemment obtenir cette place en finale de Ligue des Champions. On retourne à Vannes face à Provence Rugby, à finale Toulouse. De Pro D2. Oui, à Toulouse, bien sûr. Mais il y a tellement de Bretons que j'avais l'impression qu'on était à Vannes. Voilà.
Ils sont un peu à domicile. Allez, la relance des Vannes avec Enzo Benmegal qui a pas faussé compagnie à Bitouniata sur les 40 mètres de Vannes. 3 points d'écart entre les deux équipes, 10 à 7 en faveur des Bretons. 53e minute. Les Vannetais moins souverains quand même, hein, moins clairs dans leur jeu, moins limpides. Les Aixois s'accrochent, c'est moins enlevé, Yann, aussi qu'en première période, hein. Il y a un peu plus de fautes de main, beaucoup, un peu plus de tension,
beaucoup de fautes de main effectivement. Les équipes sont moins patientes et comme je disais, voilà, c'est Rourou maintenant qui va utiliser le jeu au pied. Vraiment la bataille de la conquête du terrain va être fondamentale pour cette fin de match.
Ça va se fermer un peu, même si Boutier relance là. Il trouve sur l'extérieur Lafage. Lafage qui va trouver Surano, encore sur l'extérieur, avec les Vannetais qui arrivent sur la ligne médiane maintenant. On a un contest dans le rock côté Aixois, mais le ballon est propre pour Michael Rourou. Et ses avants maintenant, toujours sur la ligne médiane. Mais un petit temps d'arrêt. Allez, si on fait jouer les avants à nouveau avec Wayan de Benedettis maintenant, qui va au sol. On sent que ça hésite un peu à lâcher les ballons sur l'extérieur. Et oui, Rourou, le petit coup de pied par au-dessus, peut-être pour Boudéan. Le rebond, il est pas bon. Il est pour Coville. Coville qui relance. Ah, l'interception de Gorissen, le capitaine argentin de Vannes, mais qui est tout de suite plaqué au sol. Rourou qui met le petit coup de pied derrière dans les 22 mètres. Ça roule pour Caleb Moons, le Fidjien. L'ouvreur, waouh, qui fausse compagnie. Magnifique, l'ouvreur qui affrontait la France au mois de novembre dernier avec les Fidji et les
Levante avec grande expérience qui joue loin devant au pied. Lafage qui relance. La attention parce que ah oui, avantage. Il a été pris un petit peu à retardement. Ah, c'est une erreur quand même parce que sa chandelle elle était longue. Il ça n'a pas été grand chose, mais il a été pris après le coup de pied et ça donne un cadeau, Yann. Ça donne une pénalité 38 mètres face au perche pour Levante.
Ben on en parlait justement.
C'est ce que tu disais.
Occupation, discipline. Et là,
la discipline,
et là,
c'est pour important le coup, à ce moment-là.
Ah, c'est une faute gratuite. C'est vraiment dommage pour les Aixois parce que là, il peut clairement passer à côté sans le prendre en retardement. C'est en plus, il va pas lui faire mal, mais. C'est dommage, ouais.
Ça sert à rien. Vraiment, là, on peut lancer dans son élan, mais la lucidité, tu l'as dit, hein, l'intelligence, la lucidité dans une finale face au poteau. On va regarder Gorissen, justement, ce qu'il va décider.
Ah non, mais là, ça fait pas beaucoup de doutes.
C'est ce qu'il fait, ouais. C'est ce qu'il fait, Maxime Lafage à son buteur. Mais ça peut compter dans un match serré comme ça.
Bien sûr.
Eh oui. T'en as gagné des matchs pour un petit point, pour deux petits points. À la fin, on regarde pas la note artistique, on regarde le score. Le petit point à l'avance, effectivement, pour le Graal derrière. Vous entendez les chut. Ouais. Chacun, en finale, chacun a son speaker. Hein. Le speaker de Van est là. Ouais, il le dit.
Il arrive pas à te faire taire, toi, Wilfried. En
c'est
revanche,
bien que les Aixois jouent le jeu quand même. Toi, les supporters Aixois, c'est bien qu'ils jouent le jeu. C'est pas mal.
Et oui, c'est bien.
Bon, nous, on peut pas se taire parce qu'on est en direct à la radio. Ça serait quand même.
Mais cela dit, dans le sud-est, tout le monde, les supporters ont toujours été très fair-play. Hein.
Ah oui.
Ah bon. Allez, Maxime Lafage pour donner ses points d'avance à son équipe. Il est dans un fauteuil. Et ça passe, 3 points de plus pour Van, pour les Bretons, qui mènent 13 à 7 maintenant dans cette finale de Pro D2 pour un titre de champion de France, pour un ticket à l'étage supérieur en top 14, 56e minute, 13 pour Van, 7 pour Provence Rugby.
Et il reste 15 minutes pour Brest pour aller chercher cette place en Ligue des Champions et cette finale 100% française, Kevin Morand face à Gior.
Serré, un but d'avance pour les Brestoises, 27 à 26, 45e minute de jeu ici à Budapest. Vous entendez le public de Gior qui redonne de la voix parce qu'elles étaient en infériorité numérique après une suspension temporaire, les joueuses de Gior. Mais là, elles sont de nouveau à égalité sur le terrain. Et donc, 27 à 26, un petit but d'avance seulement pour les Brestois. Ce serait un exploit évidemment de sortir ces joueuses de Gior, double tenante du titre, je le disais. 7 victoires en tout dans la compétition depuis 2009. Ce club de Gior qui est un mastodonte du handball féminin européen et qui donc pour l'instant est mené par les Brestoises, 27-26 à un quart d'heure de la fin de cette demi-finale.
Oui, alors évidemment elles sont en infériorité numérique puisqu'il y a tout le public avec les Hongroises, mais il y a quand même quelques supporters de Brest, non, des clubs français.
Oui, alors il y a une petite centaine, peut-être un peu plus, quelques centaines de Brestois, mais bon, le déplacement est très 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 loin. il y avait environ 650 supporters de Metz qui sont toujours là, évidemment, dans leur coin. Ils supportent pas forcément plus que ça les Françaises dans ce match. Et là, attention, parce que la gardienne de Brest, De Puisé, qui vient de faire deux arrêts coup sur coup et qui va donc donner une possession en plus d'avance, peut-être pour donner deux buts d'avance aux Brestoises dans cette demi-finale. En tout cas, donc oui, elles sont. Il y a quelques centaines de Brestois qui essayent de se faire entendre. Il y a une cornemuse, mais on n'entend vraiment pas ici parce que il y a trop de bruit de la part du public hongrois. Mais là, les Brestois qui donnent de la voix pour aller pousser dans cette offensive du côté des Finistériennes avec la Viakireva, la star russe que je disais tout à l'heure, qui a marqué ce jet de 7 mètres qui a permis de passer devant. Et là, donc, toujours les Brestoises à l'attaque avec Lotte qui va marquer ce deuxième but d'avance pour les Brestoises. 28-26, 47e minute de jeu ici à Budapest. Brest est devant avec deux buts d'avance.
Le petit break pour Brest, c'est bien pour les Brestoises et Budapest, ça va finir par nous porter chance. Hein.
Ouais.
Il va falloir jouer toutes les finales à Budapest pour les clubs français dans n'importe quel sport. Hein. Faut y penser. Hein. Voilà, il y aura peut-être une nouvelle victoire à Budapest après celle du Paris Saint-Germain. On retourne à Toulouse avec toi, Wilfried, pour un temps score, un point temps et score avant de faire une petite pause, Wilfried. Entre Van et
il y a 13 à 7 en faveur de Van face à Provence Rugby. Un essai de chaque côté. Tacola pour les 21 en début de première mi-temps et Célio pour les Aixois toujours en première mi-temps, et ça s'est joué donc sur une pénalité pour donner 6 points d'avance de pénalité de la Fage, 6 points d'avance pour Vannes ici à Toulouse, 59e minute.
Allez, pour ne rien rater, vous restez avec nous, on fait une petite pause maintenant et on va vivre évidemment la fin de ces rencontres. Vannes face à Provence Rugby en finale de Pro D2, et puis Brest pas très loin du bonheur de vivre une nouvelle finale de Ligue des Champions en hand féminin. Vous ne raterez rien en restant sur RMC. À tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
19h26 sur RMC. Vous aimez le suspense, vous êtes au bon endroit. Vous aimez Yann Delegue, vous êtes aussi au bon endroit. Yann est avec nous évidemment pour suivre cette finale de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby. On parlera avec Yann dans quelques instants des enjeux de ce soir. Dernière journée du Top 14. On sera avec Pierre Thévenet à Bordeaux avant UBB Clermont. Match très important pour les deux équipes pour la qualif en play-off. Mais d'abord, qui sera en Top 14 tout à l'heure? Wilfried Templier, on ne sait pas encore, il y a encore du suspense, c'est encore assez serré entre les deux équipes.
Ben oui, parce qu'il n'y a que 6 points d'écart entre les deux équipes, 13 à 7 pour Vannes. On joue la 63e minute de jeu et c'est un peu plus tendu, un peu plus serré, avec un peu plus d'erreurs, même si la mêlée Vannes a frappé très très fort il y a de ça 3 minutes avec une mêlée pour Aix-en-Provence. Les Provençaux qui se sont fait renverser, pénalité pour les Vannes qui là ont récupéré un ballon sur l'extérieur avec Boudéan qui essaie de travailler Bitouni Yata, crochet intérieur, crochet extérieur, il est passé Boudéan, il s'échappe, il rentre dans les 22, il remet intérieur pour personne, pour un petit en avant Vannes. Ah, ils ont été un peu impatients les Vannes parce que Boudéan, il aurait pu aller au sol, il n'avait pas de soutien, il a remis ce ballon intérieur, il aurait pu Yann, et ouais, c'est encore de la lucidité, faire un rug supplémentaire, aller au sol, parce que c'était dangereux pour les Aixois.
T'as raison, effectivement, il avait trouvé l'intervalle, ce qui n'était pas facile, il avait bien joué le coup, et il a un peu jeté son ballon, alors qu'il aurait dû garder pour faire un temps supplémentaire, et essayer d'être patient, parce que si les Vannes arrivent, ne serait-ce qu'à remettre 3 points, ouais, ils sont à 2 marques d'écart, donc c'est important pour eux. Mais tu l'as dit aussi précédemment, on a vu une mêlée Vannes hyper conquérante, qui a récupéré une pénalité.
Hein,
et oui, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que c'est important pour la suite du match. C'est quelque chose qui peut être déterminant.
Mais ça réveille les supporters bretons. Hein, vous l'entendez, ouais, hein, ben, Ernest Vallon.
Parce que même si c'est une mêlée pour Aix, malgré tout, c'est à 5-10 mètres de leur ligne d'embut. Donc c'est plutôt un temps fort Vannes pour l'instant. Et on peut aussi faire confiance à cette équipe de Vannes avec deux joueurs, notamment, je pense à Boutier et Lafage, qui sont quand même des joueurs d'expérience, qui ont des bons pieds. Et quand on parle d'occupation du terrain, ouais, ça peut être important.
C'est ça, ouais. Effectivement. 6 points d'avance, 13-7. Il reste 17 minutes à jouer. On rentre, on n'est pas loin du money time, pas encore, mais ça va se préciser bientôt.
Je pense que
17 minutes à jouer.
Ouais, dans moins de 10 minutes, on y sera dans le money time.
Et vous ne raterez rien.
Moi, j'y suis déjà, j'ai l'impression.
Vous ne raterez rien.
Je pense que les supporters, ça se ronge des ongles, là. Ils y sont déjà aussi.
On a fait le choix, bien sûr. On ne fera aucune pause avant la fin de cette rencontre. Tout comme avant la fin du match entre Brest et Győr. Il y a tellement de suspense, là. Budapest, Kevin Morand, dans ce Final Four de Ligue des Champions de hand féminin.
21e minute de jeu, 29 à 28 toujours en faveur de Brest, mais les Brestoises viennent décoper d'un nouveau carton rouge pour Yvette Petraki, donc une infériorité numérique pour 2 minutes et Petraki ne pourra plus entrer en jeu sur la fin de ce match, et ce sont les Hongroises à qui ont la possession pour tenter d'aller égaliser. Ça va être fait avec le petit lob sur la gardienne bretonne de la numéro 26 Hovden, la norvégienne, la championne du monde pour Gior. Ça fait donc 29 partout à un peu plus de 8 minutes de la fin de cette demi-finale. C'est serré, c'est tendu et il y a du suspense. On verra qui rejoindra Metz dans un peu plus de 9 minutes ou plus, on verra.
Oui, peut-être qu'on aura le droit à un peu plus de temps de jeu entre Brest et Győr. C'est tellement serré entre les deux équipes. Avant de retourner à Vannes, on va retrouver Pierre Thévenet qui fait partie évidemment de l'équipe qui va vous faire vivre ce soir ce grand multiplex rugby sur RMC. Salut Pierre.
Attention François, je veux pas. Oui. Bonjour Pierre, je veux pas vous. Il y a une mêlée. Les Vannes ont fait un en avant dans leurs 22 mètres. On a vu les Vannes serrer les points à 13-7, un quart d'heure de la fin. Il y a une mêlée pour Vannes dans les 22 mètres de Aix. Et les Vannes continuent leur pression en mêlée. Ils ont un avantage. Voilà, ça avance. Il y aura un ballon gratuit, comme tu dis, Yann. Et le départ du troisième ligne centre remplaçant avec Kourou maintenant sur l'extérieur. Ça peut faire un essai. Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il a marqué? Essai accordé pour les Vannes. Ah, Ben Stevenson d'anglais sur cette poussée incroyable. Ce départ de Léon Boulier et cette sautée très bien sentie à l'expérience de Michael Kourou directement sur Ben Stevenson. L'arbitre l'a accordé, il a plongé dans l'embut. A priori, Il n'y a pas de passage en touche.
Il y aura peut-être une vidéo, mais je pense effectivement qu'il n'y a pas de passage en touche. Et c'est la supériorité en mêlée fermée hein, qui donne cet essai. Oui. Rourou joue très bien le coup après, bien sûr. Mais enfin, cette avancée sur mêlée, déjà, ça permet d'avoir l'avantage. Donc, déjà, toujours avec moins de pression qu'on faut attaquer. Et puis surtout, ça met toute la défense en reculant. C'est super dur à défendre.
Et surtout, Yann, un quart d'heure de la fin, c'est un break quand même, hein. 18 à 7 avant la transformation. Le 8e essai, qu'il est important, le 8e essai cette saison de l'anglais Ben Stevenson. On va suivre la transformation en coin. Ça peut faire du 20 à 7. La fin, ce ballon, non, ça passe à gauche. 18 à 7 en faveur de Van. 11 points d'avance à 14 minutes de la fin. On a bien fait de couper Pierre Thévenet, on s'est vu, Pierre.
Ouais, va falloir une réaction très très rapide de Provence, sinon ça va sentir le roussi.
Ah ouais, parce que là, Van a quelques orteils en top 14.
Appel vidéo.
Arbitrage vidéo.
Ah là, il l'avait dit.
Ouh là là, ça c'est important.
Appel vidéo,
voilà,
sur
l'essai.
Faut expliquer. Ouais. Faut expliquer ça, effectivement, même, que c'est sans doute parce qu'on suspecte le joueur qui a marqué l'essai d'avoir mis peut-être le pied en touche, non, c'est ça?
Ouais, peut-être, mais je ne crois pas. On a revu.
Non, je crois pas. Tu penses c'est vraiment le toucher,
c'est ça qu'ils sont en train de regarder.
Sincèrement, on avait déjà revu.
J'ai pas l'impression non plus, mais bon.
Un ralenti, moi je pense qu'il y a essai.
Alors on va voir l'arbitre, le trio arbitral avec Benoît Rousselet, avec Julien Colli, avec Adrien Marbeau. Impeccable pour l'instant, il faut le dire aussi.
Benoît Rousselet,
l'arbitre de ce match.
Oh, il y a essai.
Et c'est très très important. Yann a annoncé essai. On va voir parce qu'il a plongé.
Mais il n'est pas l'arbitre de ce match, Yann Delay.
Ils reviennent vers l'embutant. L'essai va être accordé. Le toucher en but. Essai accordé en faveur de Van. Bien joué. La vue d'aigle de Yann Delegue, et j'arrive. Ça fait 18 à 7 pour le RC Van.
Yann Delegue, bien sûr.
Yann Delegue,
c'est ça. 14 minutes à jouer, 18 à 7. Le break important pour les Bretons.
Voilà, c'est pour ça qu'il est chef, Pierre Thévenet. Prends-en de la graine. T'as vu, il a senti qu'il allait avoir d'essai. Il n'a pas voulu te laisser la parole. Voilà, c'est pour ça.
Rien de personnel.
Pierre, on va pouvoir parler justement de cette soirée de rugby. Je rappelle les affiches. Hein. Racing 92, Toulouse, Pau, Montauban, Castres, Toulon, Le Loup face à Montpellier, Bayonne, Perpignan, La Rochelle, Stade Français. On en a parlé. On a dit d'ailleurs que les Rochelais auraient un œil et une oreille sur ce match UBB Clermont que tu vas couvrir pour RMC. Parce qu'effectivement, c'est un match décisif pour les deux équipes. Les deux équipes peuvent encore être barragistes. Hein. L'UBB actuellement 6e et Clermont 8e. Rappelle-nous quand même les conditions.
Exactement, l'Union Bordeaux-Bègles est 6e et a son destin entre les mains ce soir à Chavandelmas face à Clermont. Mais une victoire simple, par exemple, pourrait ne pas suffire pour les Bordelais qui devraient alors espérer une défaite du Racing ou que le Stade Rochelais ne fasse pas le plein de points face au Stade Français. Bordeaux peut se mettre un truc en tête, c'est que s'ils gagnent avec le bonus offensif face à Clermont ce soir, ils seront obligatoirement dans le top 6. Sinon, à partir du moment où ils ne prennent pas le bonus offensif, il faudra commencer à regarder sur les autres pelouses. Clermont a été balayé par le Racing 92 la semaine dernière, 41 à 13 à la maison, dans un match dans lequel ils étaient favoris et on pensait leur place dans les 6 assez sécurisée avant ce match-là. Ils ont pris une belle danse face au Racing. Ils se retrouvent à 2 points du top 6, 67 points au compteur pour les Clermontois. Pour les Clermontois, la donnée est simple également. Il faut gagner à Bordeaux déjà, absolument, et espérer soit une défaite du Racing, soit une défaite de La Rochelle.
Ouais, en tout cas, quand on observe le rugby d'un peu loin, on se dit cette équipe de l'UBB championne d'Europe, elle ne devrait pas se retrouver à jouer sa place de barragiste lors de la dernière journée.
Sauf que sur notre championnat, qui est long, qui est difficile, ils n'ont pas été aussi réguliers que ça. Ils ont perdu beaucoup à domicile d'ailleurs. Ils ont perdu 2-3 fois à domicile, je crois. Donc effectivement, ils n'ont pas été sereins. Alors maintenant, on sait très bien qu'ils ont le potentiel pour faire partie des meilleurs. Mais il va falloir gagner ce match et comme tu l'as dit, peut-être avec bonus. Et alors s'il y a bien un staff qui va être les yeux rivés sur ce qui se passe ailleurs et notamment à La Rochelle et au Racing, ce sera le staff de Bordeaux effectivement, parce que peut-être qu'une victoire sans bonus suffira, mais ça faudra. Faut pas prendre le pari, faudra regarder.
Oui, parce que c'est vrai qu'en foot, on a l'habitude de dire non, nous on joue notre jeu, on pense pas aux autres. Mais là c'est assumé, quoi. On va écouter les autres, on va écouter RMC, on va écouter Wilfried Templier et tous nos amis rugbyman, quoi, pour savoir ce qui se passe dans les autres pelouses. Et justement, Pierre, sur cette équipe de Clermont, bon, on l'a dit, ils partent de beaucoup plus loin. Mais est-ce que, au vu de la saison, ça serait mérité de les voir dans les
Bah, c'est une équipe assez irrégulière, mais qui a fait des gros coups à l'extérieur donc ils savent le faire d'aller gagner chez les gros. Ils ont gagné à Toulouse et à Montpellier. C'est la seule équipe à avoir gagné sur ces deux pelouses-là. Les Clermontois.
Ils ont gagné à Toulon aussi, je crois.
Et ils ont gagné à Toulon également. Ils ont même étrié Toulon à Mayol. Urios, il aime bien l'entraîneur clermontois, ses configurations un peu de mission commando, de mettre tout le monde derrière lui et d'aller chercher un énorme coup. Ça sera très compliqué. Mais l'an dernier, par exemple, sur la dernière journée, ils étaient hors du top 6 et ils étaient allés gagner à Montpellier. Il y avait eu deux résultats en leur faveur, ils avaient pu intégrer ce top 6, donc c'est pas impossible, d'autant Yann que les Clermontois sont très à l'aise sur cette dernière journée de top 14 dans leur histoire. Ils ont gagné 17 des 19 dernières journées de top 14 qu'ils ont jouées dans leur histoire. Les 5 dernières saisons, ils ont gagné cette dernière journée, donc ils finissent fort en général et ils sont capables de gagner à l'extérieur. Maintenant, aller gagner à l'extérieur chez le champion, le double champion
qui doit se qualifier,
qui doit se qualifier, ça va être une autre paire de manches, mais il manque du monde à Bordeaux aussi.
Ouais, mais la question que je me pose, moi, effectivement, pour cette équipe de Clermont, c'est est-ce que le match de la semaine dernière, les 40 points encaissés contre le Racing à domicile, est-ce que c'est évacué, mais est-ce que ça leur a mis un coup dans la tête et du coup, la saison est un peu terminée, ou est-ce qu'il y a cette fierté de se dire, on ne veut pas finir sur ça, effectivement, et on veut montrer un autre visage, parce qu'ils savent aussi bien jouer au rugby, et ça, on aura la réponse ce soir.
Bon, on va remercier Pierre Thévenet, UBB Clermont, ce soir 21h05, et comme tous les autres reporters RMC sur les pelouses, tu seras dès 20h avec Karen Galli pour présenter tous les enjeux de cette grande soirée, et je salue Paul d'ailleurs sur le WhatsApp RMC qui dit allez Clermont, c'est un jeunard Paul qui nous écoute sur RMC, merci beaucoup. Et comme Paul, 06 12 424 424, ce soir, pour suivre toute cette 26e journée de top 14, merci beaucoup Pierre. Il y a un moment important en handball, on va retrouver Kevin Morand là, parce qu'il y a aussi de l'arbitrage vidéo pour voir si le but a été marqué ou pas par Guior face à Brest. Là on est dans le money time, vraiment ça peut se jouer maintenant, Kevin.
Oui, et ce visionnage vidéo est terminé, et Camille Depuiset, la gardienne internationale de cette équipe de Brest, a bien fait l'arrêt sur ce tir de Guior, et donc on en reste avec ce petit but d'avance pour Brest qui tient toujours 30 à 29 en faveur des Finistériennes. Possession pour les Hongroises là, qui sont dans la partie de terrain à l'approche de la zone bretonne. Mais donc vous entendez derrière moi le public de Guior et également les Brestois qui sont vraiment proches de moi, qui donnent de la voix pour pousser. Raphaël Tervel également, l'entraîneur de cette équipe finistérienne, qui harangue le public et ses joueuses pour défendre bien sans être pénalisé dans ces dernières minutes. Et là, le tir pour égaliser du côté de Guior. On va donc être à 30 partout, plus de 2 minutes 15 de la fin du temps réglementaire dans cette rencontre.
Ah, c'est intenable là, ce qui se passe là, effectivement, entre les deux équipes. Tout ça pour une place en finale de Ligue des Champions pour retrouver Metz. Ça sera demain, à suivre sur RMC, évidemment, peut-être une finale 100% française. En tout cas, pour l'instant, les Brestoises font honneur à leur statut de championne de France, parce que elles tiennent tête au double tenant du titre, on l'a dit. Guior, ce n'est pas n'importe quelle équipe, et ça pourrait être un moment exceptionnel à vivre sur RMC, une finale 100% française en Ligue des Champions. Jamais un club français n'a remporté la Ligue des Champions en féminin.
Ça serait une première. Il y a eu plusieurs fois, il y a eu des clubs français en masculin. Il y a eu également trois clubs français une fois en Final Four dans le hand masculin. Mais c'était la première fois déjà qu'il y avait deux clubs français en Final Four. Et donc, oui, une seule finale. C'était pour Brest il y a 5 ans, après avoir éliminé Guior justement en demi. Et là, attention, parce que les joueuses hongroises qui récupèrent le ballon, qui vont avoir la possession peut-être pour passer devant, elles partent en contre, elles vont temporiser finalement. 1 minute 30 à jouer et 30 partout. Guior, c'est 11 finales tout simplement depuis 2009 dans cette Ligue des Champions. Voilà, donc c'est vraiment un gros poids lourd du hand féminin. Ils ont des internationales de partout, trois championnes du monde norvégiennes. Il y a la gardienne également qui est internationale française à Datou Sako. Il y a des danoises du côté du hand français. On a limité le nombre de joueuses étrangères à 6, enfin 5 plus un bonus, un joker. Donc on a fait ce choix là également de privilégier la formation tricolore également pour l'équipe de France féminine. Ça porte ses fruits. Et là, attention, parce que Guior repasse devant à 50 secondes de la fin de ce match. C'est Dulfler qui donne l'avantage là, à un but d'avance donc pour Guior. Temps mort à venir pour Raphaël Tervel, justement la coach finistérienne, à 47 secondes de la fin du temps réglementaire dans cette seconde période. 31 pour Guior, 30 pour Brest.
dans cette demi-finale.
Bon, on se retrouve évidemment pour vivre ces dernières secondes irrespirables à Budapest entre Brest et Győr, un but d'écart entre les deux équipes, vous l'avez compris. Brest qui joue sa place en finale de Ligue des Champions pour retrouver Metz demain. Juste pendant le temps mort, on va retrouver Wilfried Templier évidemment, parce que ça joue toujours entre Vannes et Provence Rugby. Est-ce que l'équipe managée par Philippe Saint-André a encore de l'espoir? Est-ce que tu sens que c'est encore possible là, de retourner la tendance,
Wilfried? On le voit debout, Philippe, dans les tribunes. 18-7 en faveur de Vannes, 11 points d'avance. Mais alors j'allais te dire, Yann, on a sorti Zafra le capitaine, on a sorti Coville le demi de mêlée, on a sorti Varero l'arrière. Ça sent un peu, parce qu'on explique aux auditeurs que le perdant de ce match a une deuxième chance dans une semaine face à Perpignan en barrage d'accession. Sauf que là, ils sont revenus dans les 22 mètres de Vannes et ils ont une pénalité à 7 minutes 6 minutes 30 de la fin. Et la prise de balle en touche avec un essai transformé, ils pourraient revenir à 4 points. Hein. Donc là, c'est Yannick Huyout. On a travaillé avec les avants tout à l'heure pour mettre cette défense de Vannes à mal. Mais c'est maintenant pour les Aixois, s'ils veulent espérer quelque chose encore dans ce match, avec le pilier remplaçant le pilier droit Eliot Yemsi qui vient en percussion, le talonneur remplaçant aussi l'américain Pifeletti qui est à 5 mètres de la ligne. On défend terriblement côté Vante et ce ballon il est toujours Aixois, il a failli être perdu.
On va vivre les toutes dernières secondes là du match entre Brest et Győr, là, parce qu'il se passe vraiment plein de choses partout. On viendra te voir bien sûr, Kevin Morand, mais un but d'écart à rattraper pour les Brestoises, hein, Kevin.
18 secondes à jouer dans le temps réglementaire, 31 pour Győr, 30 pour Brest. Possession en faveur des Brestoises et de Vyakireva qui va relancer à 9 mètres là après un coup de sifflet. On est en train de nettoyer justement la zone, évidemment c'est un moment important pour peut-être pour Brest disputer une deuxième finale et rejoindre Metz, donc qui s'est qualifié un peu plus tôt face à Bucarest. Ce petit but de retard pour l'instant pour les Finistériennes qui donc sont c'est reparti avec Lott qui va chercher sur le côté gauche, Lott de nouveau qui se retourne sur elle-même. On est à l'approche et le coup de sifflet de l'arbitre, on va repartir à 9 mètres là, toujours le ballon en faveur des Finistériennes. 12 secondes à jouer et toujours donc ce petit but de retard pour les Brestoises. 31 pour Győr, 30 pour Brest. C'est reparti pour le chrono et pour le ballon avec Vyakireva qui cherche Candy et le ballon perdu par Vyakireva. Et c'est le public, on croit, a compris, puisque Győr a récupéré ce ballon et c'est terminé la qualification donc des Hongroises de Győr de nouveau pour cette finale de la Ligue des Champions. Elles vont affronter Metz demain et c'est fini pour Brest, pour les championnes de France. Il n'y aura pas de finale 100% française, ce sera Győr qui affrontera Metz donc demain à 18h. Une petite finale pour la troisième place pour les championnes de France et de Brest. Donc Győr qui se qualifie 31-30 dans cette demi-finale de la Ligue des Champions féminines aux dépens des Bretonnes du BBH.
Metz, Győr à suivre en direct demain avec toi, Kevin Morand, sur RMC. Il y a eu un essai
pour Provence.
À Toulouse pour Van Provence.
L'essai pour le mêlée remplaçant Joris Cazenave qui vient récompenser le travail de ses avants. L'essai transformé et ça fait plus que 4 points d'écart entre les deux équipes à 4 minutes de la fin. Et là maintenant on joue, on gagne terrain un petit peu entre les deux équipes et les Aixois. Ils vont relancer sur leurs 30 mètres et c'est de Cazenave donc il donne de l'espoir aux hommes de Philippe Saint-André. Il y avait 11 points d'avance pour les Bretons, il n'y en a plus que 4 et ce ballon en chandelle qui est récupéré par les Vantais sur leurs 40 mètres, 4 minutes à jouer. Oh là là Yann, c'est terrible parce que quand t'as 4 points d'avance, t'hésites à jouer peut-être, t'hésites à relancer, c'est sûr.
Tu joues plus.
Tu balances le ballon tout droit devant, c'est ça?
Ouais, tu mets le ballon le plus loin possible de ton en-but. Et effectivement, et en même temps, les Aixois, eux, par contre, va falloir qu'ils relancent du bout du monde. Donc,
et puis là, il n'y aura pas de prolongation, ça peut jouer sur un essai, c'est une victoire de l'un ou l'autre ou rien. Il n'y aura pas de qualité avec 4 points d'écart, avec ce ballon récupéré par Pierre Lucas sur la chandelle de Vannes. Et relance des 22 mètres des Aixois. Bitouni Yata en bout de ligne, le Fidjien qui avait les crampes tout à l'heure, le TGV Fidjien qui se lance, qui passe un défenseur, qui relève le ballon pour le Néo-Zélandais, le coup de pied de recentrage. Il y a Boutier qui court vers son en-but, qui est poursuivi par l'ailier Aixois Léo Drouet qui dégage ce ballon en catastrophe. Il va y avoir une touche pour Aix-en-Provence à 35 mètres on va dire de la ligne de Vannes. Wow, là c'est le money time Yann, une touche en faveur de PS de Provence Rugby. Allez, pas loin, allez, 38 mètres de la ligne de Vannes. Il y a des crampes de partout. Les joueurs, il y a beaucoup de genoux au sol, effectivement. Et les avant-Aixois qui sont en train de se parler. parce qu'il y a quelque chose à faire, effectivement, mettre Levante à la faute, aller en touche, aller chercher un essai, une saison qui se joue sur 2 minutes maintenant, 2 minutes à jouer pour un billet pour le top 14. Vous imaginez ça quand même, cette dramaturgie du rugby, ça récompense pas le plus régulier de l'année, c'est vrai, pour un ticket au-dessus. Mais alors là, il y a une tension incroyable, comme il y a Yann souvent au mois de juin dans le rugby français.
Non, mais il reste du temps, hein, vraiment. Il reste deux minutes, un peu plus de deux minutes. Mais en 2 minutes,
tu peux marquer un essai.
Bien sûr. Il y a une, voire peut-être deux possessions qui vont arriver. Donc effectivement, c'est jouable. Touche à 30 mètres. On va voir si c'est ce que va faire cette équipe d'Aix-en-Provence. Voilà, bon là il y a un temps mort, tout le monde se régénère un petit peu.
Ça y est, ils se remettent avec le lancer pour Pifiletti, le talonneur international américain. Fond d'alignement, c'est en avant d'Aix-en-Provence. Ah, c'était un risque d'aller en tout au fond de cette touche là. Mais je vais vous dire qu'il y a des supporters Vente qui serrent des poings devant, parce que il y a ça 10 minutes, c'était le feu à Ernest Vallon et c'est redescendu de 2 tons.
Il y aura une autre possession, Wilfried. Il y aura une autre possession, c'est sûr.
Allez, on va t'écouter. Mêlé pour Van. Sur les 40 mètres de Van et le chrono qui tourne. 1 minute 30 à jouer. Philippe Saint-André, pas en PLS, mais
loin,
on le voit debout dans les tribunes, pas loin. Hein. Ah, vous rendez compte sur quoi ça se joue. Hein. 11 mois de travail. 11 mois de travail pour ces deux équipes. 30 matchs, un marathon de Pro D2. Une phase finale derrière. Et le bonheur dans quelques instants. Peut-être pour Van de retrouver le top 14 un an après. Ou peut-être pour Aix-en-Provence de créer encore la surprise. Mêlée pour Van. On refait rentrer Francis, le pilier gallois à droite. On refait rentrer aussi le puissant Twissoué, le Fidji en troisième ligne. Et peut-être que tout se joue sur cette mêlée en fait.
Ils ont été dominateurs tout à l'heure sur les dernières mêlées, Vente. Et là, s'ils arrivent à récupérer une pénalité sur cette mêlée, ça leur donnerait un bol d'air. Ouais.
Plus qu'un bol d'air.
Ouais.
Je pense que là, vous imaginez que tout se joue. Je trouve ça incroyable. D'aller à l'étage au-dessus en top 14, le Graal pour ces équipes, tout se joue là maintenant. Sur cette mêlée, Benoît Rousselet, l'arbitre de ce match, sur les 40 mètres donc du rugby club de Vannes, et le chrono qui est reparti. 1 minute 10 à jouer, Michael Rourou, l'expérimenté demi-mêlée néo-zélandais, qui va introduire ce ballon. La mêlée est ordonnée. Rourou qui met ce ballon. Oh la poussée exoise. On a sorti ce ballon très vite. Heureusement pour Boulier, pour Levante. On lève les bras à côté exois, mais ils l'ont bien joué. Hein. Ils l'ont bien joué, Levante, cette sortie de balle. Et là, il reste 50 secondes. Est-ce qu'on va jouer à cache-ballon? À mon avis, Yann, ça va être
oui,
ça.
Oui, ils vont essayer de garder le ballon, effectivement. Mais
voilà. Faut pas faire les soutiens offensifs de Vannes, faut pas aller au sol, faut rester sur ses appuis et écouter le public Vente. Ici, c'est la Rabine, le nom du stade de Vannes. Michael Rourou qui donne à ses avants, 30 secondes à jouer. On regarde le chrono, deuxième temps de jeu avec les avants. Là, faut être bon aussi. Hein. Là, c'est du. On part souvent de cadrage, débordement, Diane et Sous, mais ça, c'est technique aussi à faire.
Faut de la lucidité, faut aller au sol, faut que les autres ne fassent pas de faute dans leur soutien.
La liaison, la connexion entre les avants, Rourou qui ramasse. 10 secondes à jouer, 10 secondes pour un retour de balle en top 14. La pression d'Aix-en-Provence. Le ballon qui va au sol, attention, ce ballon qui va au sol et le nettoyage des avants, ça y est, vous entendez, ils n'ont plus qu'à sortir la balle. On attend que Rourou le fasse, derrière la face, il envoie le ballon, et Van est champion de Pro D2, les Bretons de retour en top 14, un an après l'avoir quitté, victoire de Van 18-14, ils sont de retour, Yann.
C'est incroyable, sincèrement. Quand on voit la saison qu'ils font, c'est tellement mérité. Alors effectivement, sur cette finale, ça s'est joué à rien du tout.
Hein. Ah, il y a envahissement de terrain là.
Ouais, ils sont tous là. Ouais. Ça y est, c'est parti là. Des milliers de Bretons qui sont rentrés sur le terrain. On ne voit plus les joueurs, les Aixois qui ont un genou au sol, qui sont allongés, passés si près. Les hommes de Philippe Saint-André. Mais la logique, on a envie de dire, est quand même respectée. 5 défaites seulement, 24 victoires pour Vannes. Et c'est vrai qu'ils nous avaient enchantés il y a un an avec la saison qu'ils avaient fait. Et c'est un bon travail aussi, on peut le dire, du président Cloarec. Voilà, c'est mérité.
C'est mérité.
Van est de retour en top 14.
C'est mérité sur la saison, mais c'est pas immérité sur le match. Ils ont été un petit peu plus dominants. Il n'y a pas de beaucoup, il n'y a pas eu grand chose, mais sur le match, ils ont mérité de gagner ce match quand même. Donc c'est une bonne chose, attention, parce que pour Aix, c'est bien aussi, parce que. Sincèrement, ce match, ça va les rassurer pour le prochain match.
La semaine prochaine.
Parce que dimanche prochain, dimanche au week-end prochain, 18h, Perpignan, Aix-en-Provence. en plus, Yann, à Provence Rugby, à
mais
Aix,
oui, c'est hein, pour ça. Mais donc là, ils vont être abattus ce
normal,
soir.
Oui.
Mais je pense que Philippe va trouver les mots pour remobiliser les joueurs. Mmh. Et sincèrement, c'est un match qui peut mettre en confiance aussi cette équipe de Provence, à mon avis. Donc c'est peut-être un mal pour un bien pour cette équipe. Alors, bien sûr qu'ils auraient préféré gagner, mais je veux dire, ils auraient pris une dérouillée, ça aurait mis un coup dans le moteur. Là, attention pour le match contre Perpignan.
En tout cas, il y a tout le stade qui est sur la pelouse. Ils sont fous, ces Bretons là. Ça y est, ils ont envahi la pelouse. Magnifique les drapeaux bretons. C'est la liesse pour le RC Van. Mon cher François, Van revient en top 14. L'émotion, on le voit, de Jean-Noël Spitzer, le manager historique. Van, je peux dire back to back parce que c'est la mode, mais voilà, ils n'ont pas mis longtemps, ils ont bien travaillé.
Cas,
back to back, ils reviennent en top 14.
Ces images, effectivement, et on te laisse recueillir. Merci beaucoup, Wilfried. Les réactions d'Evantet et de Provence Rugby, bien sûr, parce que ce n'est pas fini pour eux.
Le meilleur du rugby sur RMC avec Total Energy, partenaire officiel du Top 14 et supporter officiel de la Pro D2.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Restez avec nous, on revient dans un instant, bien sûr, pour lancer cette grande soirée de rugby sur RMC. Et puis on vous fera écouter quelques réactions parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en handball féminin. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
19h54 et que d'émotion dans cet Intégral Sport avant de laisser la main à l'Afterlife spécial rugby, puisque Van s'est imposé face à Provence Rugby. Et Van est en top 14 ce soir. Yann, on a vécu ça ensemble, ouais. Et cet envahissement de terrain magnifique. On salue évidemment le travail de Van qui avait fait une très très belle, qui avait montré une très belle image du rugby breton lors de son passage en top 14 et qui va encore une nouvelle fois sans doute nous montrer de belles choses l'année prochaine.
Ouais, c'est vrai. Et effectivement, c'était un aller-retour. Van était descendu l'année dernière, mais ils s'étaient battus avec des belles armes. Ça s'était joué à pas grand-chose. Ouais. Et sincèrement, j'espère que de nouveau, ils reviennent en top 14. C'est largement mérité sur la saison. Il n'y a rien à dire. Quand on est promis avec plus de 20 points d'avance, ouais, au second, c'est largement mérité. Sur cette finale, c'est mérité aussi, même s'ils se sont fait peur. Et moi, je suis très content aussi que le rugby reparte en Bretagne.
Exactement.
En top 14. Parce qu'il y a
vu des marinières partout, là, et des drapeaux bretons dans la tribune à Toulouse, et le stade de la Rabine de Vannes, il est tout le temps plein, guichet fermé, donc c'est toujours du grand spectacle, ouais, pour les amateurs de rugby, c'est parfait. On a une pensée évidemment pour Philippe Saint-André, pour Provence Rugby, bien sûr. C'est pas terminé, la semaine prochaine à suivre sur RMC, le barrage d'accession contre Perpignan, le club 13e de top 14. Le top 14, bien sûr, c'est dans un instant avec Johan Huget qui va prendre ta place. On fait un changement, hein,
exactement, voilà. On va se taper dans
un peu
main.
De fraîcheur, un peu, ouais, de fraîcheur, ouais, sur le plateau, même si t'as été parfait. Racing 92, Toulouse, UBB Clermont, La Rochelle, Stade Français, Bayonne Perpignan, Le Loup face à Montpellier, Castres Toulon, Pau Montauban, on sait, on l'a dit, il y a des enjeux absolument partout. Tiens, s'il y avait un, même si sur RMC on ne choisit pas, on écoutera tous, il y a un match que tu dois conseiller, là, que tu as envie de conseiller aux gens qui vont écouter ce multi-rugby sur RMC, c'est lequel?
Bah, je dirais le match où il y a les deux équipes qui peuvent se qualifier, c'est-à-dire UBB Clermont. Ouais.
UBB Clermont, commenté par Pierre Thévenet, le 6e contre le 8e, décisif pour les deux équipes. On va suivre ça. Merci beaucoup, Yann.
Avec grand plaisir.
Et à
plaisir.
Très bientôt. Très bonne, ouais, soirée
bientôt.
À toi.
Ciao.
Je rappelle aussi que vous allez avoir un dimanche de folie, en plus de la finale de Roland-Garros à 15h, Zverev Komoli. Il y a le Grand Prix de Monaco à 15h avec Antonelli en pole position. À 15h aussi, Brest qui va jouer le match pour la 3e place en Ligue des Champions féminine en hand face à Bucarest. La finale, c'est à 18h avec un club français en finale, Metz face à Győr, à suivre en direct de Budapest, donc à 18h. Et voilà, vous l'avez compris, il y a beaucoup, beaucoup d'événements à suivre sur RMC ce dimanche. Mais en attendant, on vous laisse avec le rugby, amateur de rugby, et puis le foot. À ne pas manquer, il y aura les conférences de presse demain en équipe de France à Clairefontaine. Et puis ce soir, l'after foot dès 23h pour revenir sur tout ce qui s'est passé à l'entraînement aujourd'hui pour les Bleus à quelques jours du Mondial sur RMC. Bonne soirée à tous, à bientôt, ciao.
RMC
Intégral Sport.